Vous écoutez
RMC. RMC.
18h-20h.
Rotten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Rotten.
17h59, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten Régal comme tous les vendredis. Et comme tous les vendredis, bah, j'ai mon équipe qui est là, du moins il est revenu la pièce essentielle, oui. Jean-Louis Tour avec nous. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça va?
Bah ouais, moi très bien, impeccable.
Une belle semaine.
Ouais, alors bon, c'est une belle semaine, hein, mais les trêves internationales, oui, on n'en peut plus. Voilà, moi je vous le dis. Toi, tu t'en es peut-être pas rendu compte directement, Jérôme, cette semaine, mais les trêves internationales, c'est dur. Voilà.
Ah, c'est long.
Ah,
c'est vrai que c'est un peu long. Et puis les matchs sont pas exceptionnels. Il n'y a pas que l'équipe de France, hein, qui est concernée sur des matchs moyens, mais on reviendra là-dessus dans la deuxième heure. Et puis exactement. Bien sûr, Jean-Michel Larquet avec nous. Salut Jean-Mi.
Salut Jérôme, ça s'est bien passé les vacances et tout ça, oui, on t'a pas entendu de la semaine.
Ouais, bah écoute, ça permet de souffler un peu, hein. Bah oui, bah, après, attends, j'étais.
Toi, tu t'arrêtes 5 minutes avant de transpirer tout le temps, toi, non? Ouais,
écoute, Jean-Michel, t'as connu ça il y a quelques années, t'avais besoin de souffler. Maintenant, là, t'es en vacances toute l'année.
Difficile,
donc,
c'est difficile, la trêve internationale est difficile pour l'équipe de France A. Et pour l'équipe de France Espoir, c'est difficile pour tout le monde. C'est vraiment très compliqué.
On va voir quelle est la meilleure stratégie. Est-ce qu'il vaut mieux être au frais et se reposer toute la semaine pour être bon le vendredi? Ça, c'est Jérôme. Ou enchaîner les matchs, oui, comme Jean-Michel qui était là toute la semaine. On va voir s'il arrive en pleine forme ou pas le vendredi. Voilà, ça va être la réponse dans Rotten
Régal. Moi, je suis le Claude Puel de RMC. C'est-à-dire qu'au départ, je suis titulaire sur rien. Et à la sortie, je fais 5. 5 soirées sur 5. Voilà.
Eh ben écoute, ça montre qu'on a
pourquoi Claude Puel.
Parce qu'il n'était jamais titulaire à Monaco en début de saison et puis qu'à la fin il faisait 35 matchs.
Voilà. On espère une autre issue que la saison de Saint-Etienne.
C'est tout à fait par hasard que j'ai pris Claude Puel.
Je t'aurais plus comparé à Liasser au Paris Saint-Germain, c'était un peu pareil.
Si tu veux, allez, je fais mes choix et mon choix va vers Claude Puel plutôt que, comment il s'appelait,
Francis
Liasser.
Allez, on y va.
Comment tu peux oublier ça?
C'est parti pour Rotten Régal, donc en pleine trêve internationale. Jérôme, on t'a pas entendu depuis France-Ukraine, donc mercredi, pas mal de choses à aborder avec toi.
Non, je me suis régalé.
Ah oui, j'imagine. À 18h30, vous allez vous affronter sur Olivier Giroud. Est-il toujours indispensable? Et puis à 19h, la France est-elle toujours votre favori numéro 1 pour l'Euro? On fera le débat avec nos spécialistes du foot européen pour évoquer les concurrents des Français. Mais on commence par Didier Deschamps. Attention à ne pas s'endormir.
Bonsoir petits amis.
Salut, c'est Didier Deschamps.
Et le corner n'a rien donné pour l'équipe de France, puisque de toute façon il y avait en plus une position de hors-jeu.
J'allume l'étoile des petits.
Coman qui tente de passer un contre un face à Mykolenko, il n'y arrivera pas.
Vous semez votre sable magique qui les endort.
Peut-être Hernandez qui va réussir à centrer comme il avait pu le faire tout à l'heure, mais le ballon est sorti.
Et nous repartons dans le ciel.
C'est terminé. Contre-performance de l'équipe de France. Il faudra se rattraper dimanche au Kazakhstan et pourquoi pas aussi mercredi prochain face à la Bosnie.
Bonne nuit les petits.
Mercredi soir, les Bleus donc nous ont presque endormis, hein, nous qui regardions le match, surtout sur la deuxième période. Match nul un partout face à l'Ukraine pour le début des qualifications pour le Mondial 2022. Prestation moyenne des Bleus donc, qui doit servir à Deschamps selon toi Jérôme? Ce match raté doit-il faire changer les habitudes du sélectionneur? C'est le débat tout de suite dans Rotten Régal. 32-16, appelez-nous pour participer. Jérôme, explique-nous.
Bien sûr qu'il doit changer sa ligne directrice. Moi, je l'ai très souvent défendu parce que les résultats lui ont donné raison, parce que l'ambiance dans cette équipe, l'image de l'équipe de France, il y a rien à dire depuis quelques années. Donc ça, c'est tout au mérite de Didier Deschamps. Et c'est normal qu'à l'intérieur de cette équipe et dans ce groupe, il y ait des statuts, que des joueurs aient besoin de jouer, de se remettre à jouer ensemble, parce que c'était un match aussi de reprise. Donc tout ça fait partie de mon indulgence. Mais quand je vois le match, comment il s'est passé, quand je vois comment on galère depuis quelques matchs contre ce genre d'équipe très regroupée où ils défendent à 10 quasiment, ils refusent même d'attaquer, hein. Quand tu regardes les stats, les Ukrainiens n'ont pas été très dangereux, mis à part ce but marqué contre son camp pour de la part de Kimpembe. Je trouve que Il veut faire évoluer des choses tactiquement. Là, on a vu un 4-4-2. Hein, on va pas parler de 4-2-3-1 ou de 4-3-3 avec Griezmann qui revient au milieu de terrain. On s'en fout. C'était un 4-4-2 au départ. Mais dans l'animation du 4-4-2 face à une défense regroupée, comme ça, je trouve que il faut des joueurs en fait spécifiques. Une défense à 5 avec 3 milieux de terrain très proches et 2 attaquants qui défendent aussi très proches des milieux fait que il faut passer sur les côtés, c'est là que t'as les trous et les joueurs de côté. Quand je vois ce qu'il a pu amener, alors à part Coman et Pavard, mais les deux sont se connaissent très bien, et comme par hasard c'est peut-être de ce côté-là qu'on a été le plus dangereux. Mais de l'autre côté, quand je vois que c'est Lucas Hernandez qui est préféré à Digne, alors que Digne avait montré des belles choses en équipe de France, et même Didier Deschamps le dit à chaque fois en conférence de presse, vous oubliez Lucas Digne, hein, c'est pas parce qu'il joue à Everton, un club peut-être moins médiatisé, qu'il fait pas des bonnes perfs. Je suis très content de lui. Alors pourquoi dans le style d'équipe que tu vas rencontrer, il met pas Lucas Digne qui lui a une vraie qualité de centre, c'est sa qualité première, contrairement à Lucas Hernandez, hein, qui a pas les pieds carrés, mais c'est pas là-dessus qu'on voit les points forts de Lucas Hernandez. C'est pareil pour l'attaquant côté gauche, du milieu gauche. Dire c'est Kylian Mbappé, ok, il n'y a pas de problème, sauf que Kylian Mbappé, tu sais très bien que face à une... Et il le fait au PSG en plus quand il joue à gauche. Hein. Face à une défense très regroupée, Kylian Mbappé, il fait quoi? Il vient décrocher, il met le pied sur le ballon avec la semelle et après il va essayer de dribbler. Alors un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Alors dans un jour où il est très bien physiquement, bien sûr, parce qu'il fait partie des top joueurs, il est capable d'éliminer deux, trois joueurs et puis d'aller te mettre un but de malade, et tout le monde dit bravo Kylian Mbappé. Sauf que là en ce moment il l'a montré, hein, c'est sur courant alternatif, parce que physiquement il est pas bien, et puis moi je veux pas lui taper dessus à chaque fois, mais dans ces cas-là mets un autre joueur à ce poste-là qui lui va pouvoir combiner avec son arrière-gauche. En l'occurrence t'as Thomas Lemar qui revient en forme à l'Atlético Madrid et qui rejoue et qui récupère le groupe France. Pourquoi tu mets pas Thomas Lemar? Alors même si tu veux pas le mettre d'entrée, mais quand tu vois comment ça se passe, l'évolution du match, au bout d'un moment on fait le rentrer, l'animation sur les côtés, encore une fois je pense que c'est là l'essentiel du jeu de l'équipe de France face à ce genre d'équipe. Et puis après mets des attaquants qui ont envie de marquer, alors bon, et de faire mal à la défense. Peut-être qu'Olivier Giroud en effet était titulaire, il était pas dans un grand jour, il a eu l'occasion en première mi-temps de mettre 2-3 têtes, c'est passé au-dessus, il a manqué le cadre, ok, et ben ça peut arriver. Mais par contre t'en as d'autres. Martial, même si c'est pas un joueur de tête, il a montré à Manchester United qu'il pouvait jouer dans ce rôle de numéro 9. Et puis t'en as d'autres aussi à amener, peut-être recentrer Mbappé, peut-être aussi dire à Griezmann, au bout d'un moment quand je te dis de faire évoluer les choses, peut-être à Griezmann de lui dire arrête de venir décrocher comme tu fais quand t'as une équipe qui libère des espaces dans le milieu de terrain, ok, comme il fait à Barcelone, des fois il joue comme un numéro 8, voire un numéro 6, mais là on s'en fout, on veut pas de Griezmann, il soit sur la ligne des deux milieux défensifs de l'équipe de France, il faut qu'il soit proche de Giroud, il faut qu'il soit dans la surface, un peu à l'image du but qui est superbe qu'il a marqué en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, c'est t'as l'impression qu'en fait, il leur amène pas un plus. C'est pas parce que ces joueurs-là sont champions du monde et jouent dans les meilleures équipes européennes que tu dois pas leur amener un petit truc tactiquement quand tu vois que tu pêches. Et tu pêches pas que sur le match de l'Ukraine, tu pêches sur les matchs d'avant. T'avais perdu, alors pas avec ces joueurs-là, contre la Finlande il y a pas si longtemps que ça, au Stade de France. T'as galéré contre la Moldavie ou je sais plus qui. Ce genre d'équipe, au bout d'un moment, il faut les faire bouger, il faut faire bouger les lignes. Et puis, si les joueurs, ils arrivent pas à s'y mettre, eh ben, t'en mets d'autres. Et le statut, sur ce genre de rencontre, il saute. Et en plus, je pense, et je finirai, et je laisse la parole à Jean-Michel, c'est que, en plus, je pense, une chose, c'est que, en donnant un peu plus de temps de jeu et plus de poids à certains joueurs qui sont des coiffeurs, là, les fameux coiffeurs qu'on dit quand on est remplaçant en équipe de France, eh ben, en leur donnant un peu de temps de jeu et en leur amenant un peu plus, peut-être qu'eux, ils vont montrer un peu plus de volonté. Moi, j'ai vu des têtes où des joueurs, je trouve qu'ils sont lassés. Il y a une lassitude. Et ce qui est totalement logique, hein, vu le contexte et vu l'accumulation des matchs, je leur en veux pas de pas mettre le maillot de l'équipe de France et de jouer contre le Kazakhstan ou contre l'Ukraine que t'avais gagné 7-1 il y a pas si longtemps que ça, et de pas dégager une force de caractère, envie de tout écraser. Ok. Mais dans ces cas-là, fais confiance à d'autres, et eux, par contre, le maillot, ils vont peut-être le mouiller différemment.
Voilà. Alors pour l'instant, c'est pas mal de se reposer la semaine parce que ça donne de très bons avis le vendredi. Excellent Jérôme. Alors Captain, qu'est-ce que tu penses de ce qu'a développé Jérôme ?
Bah pour une fois, je vais faire du Deschamps. Et je ne vais pas faire du consultant qui donne son avis sur s'il doit choisir ou s'il ne doit pas choisir. Aujourd'hui,
c'est peut-être plus intéressant.
On le sait, Didier Deschamps ne changera pas. Donc, on peut faire le débat et les arguments de Jérôme sont excellents. Je pense qu'effectivement, quand on est le sélectionneur de l'équipe de France et qu'on a à sa disposition un vivier de joueurs incroyable, qu'aucun autre entraîneur n'a, il y a une chose qui doit guider le sélectionneur, c'est de prendre les meilleurs et de faire la meilleure équipe à l'instant T. Voilà, avec peut-être une partie de continuité, tu peux pas changer à chaque rassemblement les 23 joueurs, mais rien ne t'empêche d'ouvrir et de fermer la porte, surtout par les temps qui courent, on nous demande d'aérer.
On a l'impression que lui, il aime rester fidèle à ses champions du monde quand même, s'ils sont un peu moins bien.
Et donc on a envie de dire à Didier Deschamps, on aurait envie de lui dire, aère l'équipe de France, donne-lui un souffle nouveau, donne-lui de temps en temps un petit coup d'inspiration.
Mais il a l'opportunité, ça, Jean-Michel, de le faire quand même. Même si tu n'ouvres pas la porte à certains.
Je suis en train de te dire qu'il ne le fera pas. Il ne le fait
mais
pas.
Mais il a les joueurs dans le groupe, c'est ce que je veux te dire. C'est qu'aujourd'hui, il les a dans le groupe quand même, Jean-Michel.
Chose, Jérôme, ne t'énerve pas. Je sais que tu as...
Il ne s'énerve pas, c'est la façon de parler.
En plus, mais malheureusement, je ne cesse, moi, de dire que certains ont parlé du statut. D'ailleurs, tu en as parlé. Dès le départ, tu as dit, certains ont des statuts. Moi, je considère qu'en équipe de France, ce statut doit être assez fragile. Et chaque fois qu'on parle de l'équipe de France, on ne peut pas non plus chaque fois nous jeter à la figure. Tu as parlé des matchs moyens, voire très moyens, que l'on a vus dernièrement. Et puis, nous jeter à la figure une fois que l'on a épuisé nos arguments. Ouais, ah oui, mais nous... On est champion du monde, bon, vous avez juste à la fermer. Voilà, parce que c'est l'argument massu, ça. Celui-là, il est employé partout, ouais. par tous. Ben, à un moment ou un autre, tu as le droit de dire, oui, on est des champions du monde en difficulté, on est des champions du monde vieillissants, on est des champions du monde mollissants, on est des champions
surtout
du monde...
Surtout quand tu ne gagnes pas les matchs, hein, Jean-Michel.
Ah ben oui, mais tu n'as même plus le droit de dire ça. Tu n'as même plus le droit de le dire. Donc, aujourd'hui, là, je vais reprendre ma casquette de consultant, mais c'est le rôle du sélectionneur de se remettre en question, de remettre en question son groupe, de remettre en question les statuts, pas chaque fois, pas tous les 36 du mois, mais de temps en temps, en fonction de ce qu'il a fait avec l'équipe de France, en fonction de ce qu'il a fait avec son club, en fonction de ce qu'il a fait au plus haut niveau, en Ligue des Champions s'il y est, ou en Ligue Europa s'il y est. Mais le problème aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment que cette équipe de France est en train de s'ankyloser et qu'elle a de l'arthrite. Et tu sais, l'arthrite, c'est la maladie des vieux. Hein. Elle est vieux, il souffre d'arthrite. Et j'ai l'impression que cette équipe de France est une équipe de vieux. Voilà. Et qu'aujourd'hui, quand on parle, on va, comme tu l'as fait, avancer des arguments qui me semblent logiques, qui me semblent pertinents. Et à la sortie, Jérôme, ah, mais on est champion du monde, fermez le banc.
Oui, mais sauf que le seul bémol à ça, bien sûr, que t'as le titre de champion du monde qui te donne un pouvoir très fort, et ce qui est logique, même au niveau de la confiance. Mais même ça, en fait, il dégage plus ça sur le terrain aujourd'hui. C'est pour ça que je dis attention.
Je suis d'accord avec toi.
Et souvent Didier Deschamps, c'est vrai qu'on peut le critiquer. Moi, je l'ai défendu parce que il a souvent un coup d'avance. Et c'est vrai. Rappelle-toi avant la Coupe du Monde, la façon de jouer de l'équipe de France, tout le monde le fracassait. À l'arrivée, il savait qu'en jouant comme ça, il pourrait être champion du monde. Il l'a été. Bravo à lui. Aujourd'hui, moi, je le dis, et l'année dernière, s'il y avait eu l'Euro, je le disais aussi. Attention, l'équipe de France, en jouant de la même façon, avec les mêmes joueurs qu'à la Coupe du Monde, Je pense qu'on ne gagnera pas l'Euro. Il va falloir se réinventer. Il a essayé de changer tactiquement des choses, parce que c'est vrai que contre les petites équipes, mais il y en aura, il n'y a pas que des grosses équipes qu'on va rencontrer à l'Euro, même si le premier tour est quand même relevé, mais quand même, peu importe. Avant ça, il y a quand même des équipes à aller battre qui vont te proposer ce même genre de match, c'est-à-dire avec un bloc très bas, où là, tu as des difficultés. Et là, je comprends pas, encore une fois, qu'il n'arrive pas à s'adapter et qu'à chaque fois, on a le même genre de match. Alors quand il gagne, ok, on peut rien lui dire parce qu'il a gagné. Et je sais que Didier Deschamps, par rapport à d'autres sélectionneurs, qui eux mettent plus le jeu en place et attendent les compétitions pour vraiment jouer la gagne, lui tous les matchs il veut les gagner, sauf que là tu les gagnes pas. Donc alors, là si tu les gagnes pas, c'est qu'il y a un problème.
Deschamps doit-il se réinventer? Êtes-vous d'accord avec Jérôme? 32-16, on donne la parole dans une seconde à Steven et Christelle qui veulent débattre avec vous deux, Captain et Jérôme. Roten Régal revient dans une seconde, à tout de suite.
RMC Roten Régal, François Pinet, Jérôme Roten.
18h16 en Roten Régal, toujours avec, non, pas François Pinet, Jean-Louis Tour, qui est revenu après une semaine de vacances. Bien sûr qu'on le salue, François. Il a été très bon la semaine dernière. Bien sûr, toujours avec Jean-Michel Larquet. On continue, Jean-Louis, de débattre sur l'équipe de France.
Ouais, et à 18h30, on partira sur Olivier Giroud, puisque, Captain, tu veux confronter ton point de vue à celui de Jérôme sur Olivier Giroud. Ce sera dans un instant. Mais d'abord, tu as expliqué que Deschamps devait se réinventer, d'autant plus après le match face à l'Ukraine. Jérôme, on va voir ce qu'en pense Christelle, qui est avec au 32-16. Bonsoir Christelle.
Bonsoir
Christelle.
Bonsoir
Christelle.
Alors est-ce que Deschamps doit se réinventer?
Christelle, d'accord avec moi?
Ah bah oui. Entièrement. Entièrement d'accord. Non mais c'est plus possible. J'ai rien contre Deschamps. C'est vrai, il est champion du monde. On nous le ressasse sans cesse. Mais là, il faut changer quelque chose. Ça fait trois ans. Mais dans cette équipe, en fait, il n'y a pas de style de jeu. C'est tous derrière et c'est en contre-attaque. Comme l'Ukraine a joué contre nous, hein. C'est pareil, on a gagné la Coupe du Monde grâce à qui? Grâce aux flèches qu'on a devant, hein. Grâce à des joueurs exceptionnels, comme des Kanté, comme des Mbappé, comme des Pogba, voilà. Il a la chance d'avoir des joueurs comme ça dans son équipe. Mais à force de tabler toujours sur des excellents joueurs, parce que ça passe, ça a passé jusqu'à maintenant, mais à un moment, ça passe plus. Contre la Turquie, contre la Finlande, mais même contre l'Ukraine, là, c'était lamentable comme jeu.
Et ça fait beaucoup de contre-performances quand même, mais ça commence à faire.
Non, mais c'est pour ça, non, mais. Ouais, mais, ouais. Mais c'est vrai que t'as raison, Christelle, de mettre ça en avant, parce que, en effet, moi, souvent, je l'ai défendu, Didier, parce que, il a quand même réussi des choses incroyables avec ce groupe,
oui,
et même des joueurs, mais il y a une façon, et il faut pas l'oublier, et celle-là, il faut pas la mettre de côté, hein. C'est pas parce que je dis que l'équipe de France ne gagnera pas l'Euro comme elle a gagné la Coupe du Monde dans ce style-là, contre ouais. certaines équipes, il va peut-être falloir refaire ce genre de match, c'est-à-dire avec un bloc plus bas et contrer un adversaire.
La victoire au Portugal, par exemple, en Ligue des Nations, ça peut faire office de référence dans ce genre de match.
Oui, exactement, t'as raison.
Mais pourquoi? Parce qu'on a joué quoi? On a joué avec un bloc à l'arrière.
Oui, et que les Portugais ont ouvert le jeu aussi.
Mais oui.
Non, mais de toute façon, on sait très bien que de toute façon, pour jouer ce genre d'équipe très regroupée, de toute façon, c'est aussi très compliqué, hein, pour n'importe quelle équipe dans tous les cas. Mais après, il y a des choses à amener que le sélectionneur aujourd'hui a du mal à amener déjà
à essayer de réinventer. C'est-à-dire, il a des joueurs comme Giroud, ça a été un excellent joueur. Mais stop, quoi! Il a 35 ans!
Alors, ça, Christelle Giroud, on en parle juste après 19h30.
Ouais,
à 18h30.
Ouais, mais là. Ndombi,
Sissoko
et tout.
Ah bah, Ndombi, il est pas là.
Ouais, attention, Christelle, de pas trop critiquer Giroud, parce qu'il y a son arrière-grand-père qui va le défendre dans quelques minutes.
Ah bon? Non, après, c'est un excellent joueur, mais stop, c'est fini. Mais Deschamps, il faut qu'il
soit pas
mauvais. Parce que là, je vous dis là,
oui, Christelle.
On s'endort devant ces matchs. On s'endort.
Oui, il y en a. Emmanuel Petit, Manu Petit s'est endormi, là. Et,
oui, il s'est réveillé après le match, il nous a dit.
Ouais. Donc voilà. Ouais,
malheureusement, il n'y a pas que ce match-là où il s'est endormi.
Ouais. Voilà.
Bon, donc moi ce que je retiens, c'est qu'il faut faire peut-être un peu moins confiance aux champions du monde dans tout ce que
non,
vous dites.
C'est pas ça, c'est pas non, pas forcément. Moi je dis pas qu'il faut virer tout le monde, c'est pas du tout ça.
Non,
ce
j'ai
que
pas
je
dit
dis.
Ça non plus, c'est mais on a l'impression qu'il y a un 11 calqué sur celui qui est devenu champion du monde, a eu un changement près, Matuidi Rabiot en gros, ouais. Et qu'on va partir à l'Euro comme ça. Toi tu dis attention.
Mais moi, je dis attention, mais même dans son roulement, les 23 joueurs, j'ai rien à dire. De toute façon, on est tous des sélectionneurs. Il y a que lui qui décide. Aujourd'hui, il va quand même essayer de prendre les meilleurs, mis à part le cas Karim Benzema, on va pas revenir dessus, mais sinon, il va essayer de prendre les meilleurs et les meilleurs dans la vie d'un groupe, parce qu'une compétition, il faut aussi que la vie des 23 fonctionne très bien. Mais après, c'est, dans ce qui dégage, moi, en fait, ce qui me choque le plus, c'est, outre le côté technico-tactique que j'ai dit tout à l'heure, c'est le visage des joueurs. C'est-à-dire, quand tu es en équipe de France, tu mets le maillot, tu dois avoir un certain visage. Ça doit transpirer la fierté, la sérénité, l'envie de faire mal et de faire briller ta nation. Et je trouve, encore une fois, mais c'est pas une critique, parce que ces mecs-là ont beaucoup joué, ont beaucoup gagné ces dernières semaines ou ces derniers mois. Donc tu peux avoir une lassitude quand tu joues une équipe qui est moins ronflante.
Eh ben alors, si t'es blasé, tu changes. Ben si t'es blasé,
non,
tu changes.
C'est à lui de sentir ça, Didier Deschamps.
Dans la situation où l'on est aujourd'hui, que des joueurs on puisse trouver comme excuse, je te tombe pas dessus, Jérôme, non. Qu'on puisse te trouver comme excuse que les joueurs sont blasés parce qu'ils ont trop gagné. Mais bon sang, mais il y a 66 millions de Français qui voudraient être à leur place. Ils ont une vie normale alors que
Mais ça a toujours existé, ça, Jean-Michel.
Ouais, bah oui,
ça a toujours existé. Non, mais même en 98, il y a des matchs. Et moi, j'ai joué avec une grande partie des champions du monde 98. Il y a des matchs. Franchement, ils en avaient rien à carrer. Mmh. Ils en avaient rien à carrer. Alors après, ça se traduisait pas tout. Ou on me faisait rentrer parce que il devait sentir que le mec il allait pas les faire gagner aujourd'hui, donc vas-y mon coco, toi t'as envie, tu vas courir. Mais en fait, Jean-Michel, je te dis ça pas forcément. Je peux comprendre le fait que ces joueurs-là jouent beaucoup et qu'on vit dans une période, le contexte est compliqué, des matchs à huis clos comme ça, à tire-larigot. Je peux comprendre encore une fois, c'est pas leur trouver des excuses.
Mais t'as raison. Il y a zéro excuse. Mais ils jouent. Il y en a d'autres qui voudraient jouer,
dis ça,
Jérôme.
Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais je dis ça parce que tu le vois sur leur tête. Et tu vois, moi, je suis désolé. Je vais pas tomber sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est incroyable ce qu'il fait depuis. Il a déjà 40 sélections. Il a déjà 40 sélections. Aujourd'hui, quand tu le vois, franchement, je me dis pas Kylian Mbappé, il avait envie sur la deuxième mi-temps de tout arracher pour faire gagner l'équipe de France. Ça, c'est ce que j'ai ressenti.
Peux intervenir ?
Oui, Christelle, bien sûr.
Vas-y,
Christelle. Je peux intervenir là-dessus ? Ok, Mbappé, il a pas été bon mercredi. Mais pourquoi ? Mais qui donne les ballons ? Il n'y a pas meneur de jeu dans cette équipe. Il n'y a que Pogba qui a fait une passe en profondeur.
Il y a aussi le comportement. Christelle, c'est plus compliqué que ça, Christelle.
Mais joueur en numéro 6.
C'est plus compliqué que ça. Mais les ballons qu'il avait, il n'a pas fait non plus. Tu sais, quand tu fais le 1 et que tu n'as jamais le 2, Christelle, à un moment donné, tu ne fais même plus le 1. Hein.
Parce que Mbappé. Avec qui va s'appuyer ? Avec Giroud, mais Giroud, il est incapable de remettre le ballon correctement à chaque fois. Mais c'est la vérité.
Je vais avoir un quart d'heure qui suit qui est difficile.
Oui, sans doute. Christelle, merci d'être venue au 32-16.
Merci Christelle, en tout cas.
Et tu es la bienvenue sur RMC, évidemment, pour débattre avec nous.
Il
y a Steven également qui a fait le 32-16 et qui veut réagir à ce qu'il entend. Salut Steven.
Salut Steven.
Salut à tous.
Salut Steven.
Bon, alors, tu penches comme Christelle ou t'as un autre avis ?
Je vais te dire que j'ai un petit peu le même avis, mais je vais remonter un peu plus loin que Christelle, parce qu'on a beaucoup parlé des champions du monde. Je vais revenir un peu avant, je vais remonter jusqu'à la Coupe du Monde 2014. Moi, je vois toutes les compétitions internationales, je regarde tous les Euros, toutes les Coupes du Monde,
ouais.
Et je me souviens de la Coupe du Monde 2014, où déjà l'équipe de France est sorti de la poule en faisant un premier match. À l'époque, il y avait Benzema. On avait gagné 3-0 contre une équipe sud-américaine, je me rappelle plus laquelle.
Pas le Costa Rica ou l'Équateur.
Honduras, peut-être.
À l'Honduras, oui, peut-être.
Et que le deuxième match, on avait mis une grosse volée à la suite, il me semble, qu'on leur avait collé 5-2 en venant 5-0 à la mi-temps. Oui. Et que le troisième match avait été beaucoup plus laborieux. Il avait fait tourner, mais ça a été beaucoup plus laborieux. Et que dès les huitièmes de finale contre le Nigeria, dès qu'on a eu un défi physique, on a été en grande difficulté et qu'on a gagné sur un coup de pied arrêté, il me semble, un but de Pogba sur un coup franc de loin ou un corner.
Ouais, on gagne 2-0 à l'arrivée, mais il y a
et
le but de Pogba.
Et un but de Griezmann, il me semble, en fin de match.
Et donc, où tu veux en venir là-dedans?
Ce que je veux en venir, c'est qu'on a beaucoup de mal à produire du jeu. Deschamps a beaucoup de mal à faire que ses équipes produisent du jeu parce qu'il manque justement ce meneur, ce 10 à l'ancienne qu'on n'a plus. Là, je vais remonter encore plus loin, depuis Zinedine Zidane. Vraiment, vraiment, depuis qu'on n'a plus Zidane, donc depuis 2006, l'équipe de France, c'est très compliqué. Alors, après 2006...
Quelle est la sélection nationale aujourd'hui?
Il y en a plus beaucoup.
Qui domine le foot européen, on va rester en Europe.
Avec un numéro 10.
Il y a un numéro 10 comme Platini ou Zidane, pour citer deux Français. Quelle est l'équipe?
Il y a eu, on va dire, la période Espagne qui a gagné 2 euros de suite, avec une Coupe du Monde au milieu, où il y a eu, on va pas dire un vrai 10, mais deux milieux offensifs qui sortaient du lot, qui étaient Iniesta.
Oui, Xavi et Iniesta. Xavi et Iniesta, t'as raison.
Xavi et Iniesta, et il y avait Silva.
Il y avait Alonso qui jouait, Xavi Alonso.
Et Xavi Alonso, ils avaient un milieu de terrain très compétitif, probablement l'un des meilleurs qu'on ait vu au monde, mais ils avaient ce Iniesta qui avait une complicité incroyable qu'on n'a encore pas vu avec Xavi, qui avait un milieu de terrain sensationnel. Après, il gagne l'Euro 2012, après la Coupe du Monde.
Steven, là, si tu me refais l'histoire, tu vas tomber sur Zidane et Platini, donc tu vas trouver numéro 10. La question, c'était actuellement, quelle est la sélection?
Quelle nation joue avec un numéro 10, ouais.
Donc il n'y en a pas, c'est ça que vous voulez lui dire. C'est qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins des numéros 10 et qu'on peut bien jouer au foot sans numéro 10 aussi, peut-être.
Exactement.
Voilà. On peut toujours jouer au foot avec un numéro 10. C'est vrai que c'est un poste qui se fait beaucoup moins parce que maintenant, le jeu, beaucoup d'équipes jouent avec trois milieux. Donc, des milieux qui ont tendance à utiliser toute la largeur et un peu plus la profondeur. C'est pour ça que nous, maintenant, sans avoir de numéro 10, on a un Pogba qui est capable de jouer bas et de beaucoup se projeter en avant. Également N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, j'ai regardé
les matchs. Est-ce que toi, tu penses que Deschamps doit changer davantage les joueurs? C'est ce que disait Jérôme.
Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a des joueurs...
Surtout sur ce genre de match.
Peut-être pas ne plus les utiliser, mais en utiliser d'autres et instaurer une concurrence supplémentaire. Alors, je regarde beaucoup la Ligue des Champions et la Ligue Europa notamment aussi. J'ai notamment regardé, il n'y a pas longtemps, Milan-Manchester, avec un but de Pogba. C'est vrai que Manchester s'est métamorphosé avec l'entrée de Pogba à la mi-temps. Le problème de Deschamps aussi, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui sont des fois en méforme dans leur club, qui subissent des blessures, tout ça. On prend un bilan large. Varane, au Real, il est moyen. Pogba, il est souvent blessé. Griezmann, il est dans le dur depuis deux saisons. Mbappé, un coup il est chahuté, un coup ça va avec le PSG.
Steven, je te coupe, mais là on parle de ce qui se passe contre des équipes qui sont beaucoup plus faibles que l'équipe de France en termes au niveau collectif, mais surtout au niveau individuel. Et que même si en effet, je suis d'accord avec toi sur les méformes de chacun, parce que le contexte fait qu'aujourd'hui, en effet, il y a vraiment des sauts comme ça sur les performances. Une semaine, ils vont exceller et 15 jours après, ils vont s'écrouler. Et puis ça va revenir. C'est vrai qu'il y a quand même des sauts de performance qui sont incroyables actuellement. Alors, dû au contexte. Mais après, je suis désolé. Même en étant à 70% de tes moyens physiques, tu dois réussir à battre l'Ukraine quand même. Bah oui.
Steven, merci d'être venu au 32-16. Et dans une seconde, c'est l'affrontement autour d'Olivier Giroud. À tout de suite.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Roten.
18h33 toujours. dans Rotten Régal sur RMC, bien sûr, avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Louis Tour. On continue, Jean-Louis, de débattre sur l'équipe de France. Et là, c'est l'heure de l'affrontement avec Jean-Michel.
Juste avant, le programme du journal moyen qui arrive à 18h45 avec Adrien Aigouin. Salut Adrien.
Salut messieurs, tous les bons clients sont là. Il y a du Christophe Cessieux qui parle de foot, toujours sympa. Du Edouard G qui parle de foot. Du Kevin Diaz. Et j'ai Manu Amoros qui continue de démonter tout le monde. Vous vous souvenez, il s'est chargé de Basile Boli il y a quelques semaines. Il se charge d'un autre joueur de foot là. C'est assez étonnant, Manu Amoros.
C'est à 18h45. Merci Adrien. Giroud, on y va.
Bon, l'élève, Manu.
RMC, le respect des aînés est une preuve de caractère.
Moi je joue contre capitaine au ping-pong, je lui fais des amortis. Hein. Il ne peut pas y aller.
Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Le maître contre l'élève.
T'es bon au ping-pong, capitaine?
Oui, très bon, mais Jérôme, tu n'as pas choisi ton adversaire, toi, au ping-pong, non? Tu as choisi, tu as fait par hasard le DRH, là, hein?
Oui, au premier tour, il a joué contre le DRH.
Tu n'as pas dû le choisir, hein?
On salue.
Hein? Non, bah,
pourquoi il l'aurait choisi?
Non, on le salue, ouais.
Il est tombé sur un adversaire redoutable. Hein.
Il était pas mal. Ça devait être Eric Dimeco, mais bon, je pense qu'il a fait caca culotte, Eric Dimeco. Donc, en fait, on a été obligé de le remplacer.
Ouais, c'est ça.
Et bon, vu qu'il m'avait pas encore payé, il a morflé.
Et le prochain tour, c'est contre qui?
Prochain tour, un petit joueur. Je regarde pas trop mon tableau.
Ouais, tu regardes pas l'adversaire, je comprends.
Non, mais je crois que c'est un certain MB.
Mohamed Bouafsi.
Initial. Je crois, ouais.
Ah, très bien, d'accord. Ok, bon, on va suivre ça quand même.
Ah, je vais suivre ça.
Il est parti à Merano pour se préparer parce que là, il passait pas au poids, apparemment, sur le tour.
Alors, surveille ton adversaire du moment, maintenant. Il s'appelle Jean-Michel Larquet. Et il peut donc défendre son point de vue sur Olivier Giroud. Pour toi, Captain, Giroud est toujours indispensable.
Bah, écoutez, j'ai d'abord été très étonnant.
Voilà. Un petit souci. On t'a retrouvé. Vas-y. Je crois qu'on t'a retrouvé, c'est bon.
J'ai d'abord été...
Non, on t'a pas retrouvé malheureusement, voilà. Donc on te saura après par quoi tu as été étonné.
Je pense j'ai déjà gagné, en fait.
Oui, alors je sais pas non plus si t'as gagné, parce que toi aussi, c'est pas extraordinaire. Donc, on va essayer de s'accommoder de tout ça sans aucun problème. Et Jean-Michel est de retour. Il va nous dire qu'est-ce qu'il étonne.
Elle vrille. Mais moi, je travaille des balles. Moi, je travaille.
Oui.
Ça marche ou ça marche pas?
Oui, c'est bon, vas-y.
Bon, oui, j'ai été très étonné par la sortie de Jérôme, qui l'état de grâce pour Didier Deschamps est terminé, y compris par ses plus farouches défenseurs. Et on va évoquer le cas Giroud aujourd'hui, avec un garçon qui, depuis qu'il est en équipe de France et depuis que le sélectionneur a décidé de se passer de Benzema avec les raisons qui lui appartiennent, ce garçon-là a toujours rendu des services, bien au-delà, d'ailleurs, bien au-delà de ce que l'on attendait. Parce que, il est sur les pas de Platini, je crois, non? C'est où il est en hauteur de Platini au nombre de buts, ou même il est peut-être.
Bien sûr, il l'a dépassé. Devant. 44 buts pour Giroud.
Voilà. Il a Platini, qui est un petit joueur, il a dépassé Jean-Pierre Papin, qui était un avant-centre redoutable. Il est à la poursuite de Thierry Henry. Et ce garçon-là a eu beaucoup de mérite à subir des assauts répétés de Jérôme, par exemple, qui a une petite... il n'a pas une dent. Il n'aime pas. Voilà, il n'aime pas Giroud, il n'aime pas son style. Je ne suis pas un fan de Giroud, mais aujourd'hui... Si Didier Deschamps ne veut plus prendre Benzema, alors il faut bien qu'il s'appuie sur quelqu'un. Il s'appuie sur Giroud, qui lui a rendu du service, qui continue à lui rendre des services. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est que effectivement, il ouvre sa porte. Mais comme Didier Deschamps n'ouvrira jamais la porte à Marcus Thuram, et plus exactement à Pléa. C'est Pléa qui joue avant-centre à Mönchengladbach.
Oui.
Il y a Aller aussi qui joue à l'Ajax.
Aller qui est du côté de l'Ajax. Bon, on les a pas vus. Donc, je considère qu'aujourd'hui, Giroud est le seul attaquant de l'équipe de France, ou le seul attaquant français susceptible de rendre des services. Il y a bien eu des tentatives avec Ben Yedder, au demeurant bon footballeur, mais qui se sont soldés par de gros échecs. Il y a eu des tentatives avec Martial, qui est un bon footballeur, mais qui se sont traduites par des échecs. Donc, à ce jour, dans l'escarcelle de Didier Deschamps, tel qu'il l'a, dans le panier de Didier Deschamps, tel qu'il l'a consacré, je ne vois pas d'autres joueurs plus utiles que Giroud. Et donc, Jérôme, soyons patients. Peut-être qu'un jour, il y aura du changement. Mais pour l'instant, la pire des choses, c'est de mettre en doute la position de Giroud. C'est le déstabiliser encore un peu plus. Et Dieu sait si jusqu'à présent, il l'a été.
Jérôme, qu'est-ce que tu réponds à ça ?
Non, en disant que de toute façon, je passe pas mon temps à parler de Giroud. Ça faisait un bon bout de temps, hein, Jean-Michel, que j'avais pas pris position sur Olivier Giroud. Mais là, tu remets ça sur le devant de la scène. Donc, je vais te répondre. Pour moi, quand je te parlais d'évolution dans le jeu de l'équipe de France, ça passait après la Coupe du Monde par oui un changement de numéro 9. Alors, ça aurait pu être Mbappé hein, en numéro 9, sauf qu'il a montré des limites.
Échec.
Quand il joue à ce. Ouais, mais encore une fois, c'est facile de parler d'échecs de certains joueurs, alors qu'ils n'ont pas le crédit et la patience qu'a eu Olivier Giroud.
Paris Saint-Germain aussi.
Non, oui, mais d'accord. Mais bon, c'est un jeune joueur, Jean-Michel. Ce que je veux dire, c'est que on peut parler de Pléa, on peut parler de Thuram, on peut parler d'Aller, mais ces mecs-là, Martial, tu m'as dit que c'était un échec. Mais Martial, est-ce qu'il a eu l'opportunité depuis qu'il joue numéro 9? Parce qu'avant, il jouait sur un côté. Mais depuis qu'il joue numéro 9.
Mais Jérôme, est-ce que c'est la faute?
Ils n'ont pas le droit à l'erreur, ces mecs-là.
Mais est-ce que c'est la faute d'Olivier Giroud?
Mais encore une fois, je m'en prends. Mais là, moi, je m'en prends pas à Olivier Giroud.
Est-ce que c'est la faute?
Mais ah bah, c'est pas même la faute d'Olivier Giroud, c'est de la faute de Didier Deschamps qui reste omnibulé par le fait de mettre Olivier Giroud à chaque fois pour amener sa force, son physique. Oui, ok, il y a pas de problème, mais encore une fois, on a vu les limites contre l'Ukraine. Je suis désolé, Olivier Giroud, si c'était un joueur,
Si c'était Van Basten, on le saurait.
Eh ben moi, les stats qui marquent des buts, bravo à lui. Moi, je critique pas la carrière, elle est incroyable. Même son état d'esprit, son professionnalisme. Quand tu vois ce qu'il a vécu dernièrement à Chelsea et que il jouait plus du tout et que d'un seul coup le mec le met et il est capable d'enchaîner des matchs, il en a pas enchaîné beaucoup, mais dès 90 minutes, ça montre que le mec, il pense avant tout à garder la forme pour être bien quand on fait appel à lui. Le problème qui se pose pour Olivier Giroud, et c'est pas qu'en équipe de France, du moins en équipe de France, il est dans la peau du titulaire, mais en club, il s'est jamais imposé sur ces dernières années. C'est, il y a bien une raison. C'est parce que à Chelsea, regarde, ça a changé d'entraîneur encore une fois. Thomas Tuchel, il lui préfère d'autres, dans d'autres styles peut-être. Moi, ce que je reproche
Cette saison, il est à 11 buts en 24 matchs. Mais
il joue pas. Arrête tes conneries, Jean-Louis. Il ne joue pas. Aujourd'hui, Thomas Tuchel, il a trouvé.
Il est remplaçant, effectivement.
Mais oui, mais Thomas Tuchel, il a trouvé. Mais comme par hasard, parce que il vient d'arriver, Thomas Tuchel, il a testé des choses. Et comme par hasard, encore une fois, ça passe par d'autres joueurs qu'Olivier Giroud. Aujourd'hui, il a sa formule, Tuchel. Olivier Giroud sera le remplaçant du remplaçant comme il a toujours été sur les dernières années. Et c'est pas possible qu'en équipe de France, il ait ce statut de titulaire. Qu'il soit remplaçant, qu'il soit dans le groupe par rapport à ce qu'il a fait.
C'est extraordinaire qu'il ait ce statut de titulaire. Est-ce que c'est Giroud qui l'a décidé ainsi?
Mais je m'en fous, moi. Il est sur le terrain.
Je m'en prends à
Didier Deschamps. Didier Deschamps, je m'en suis pris au début de l'heure. Donc je vais pas à chaque fois. Didier Deschamps, c'est lui qui le met. Sauf que moi, encore une fois, qu'il soit dans le groupe, pas de problème. Même à 35 ans, le mec, il est professionnel. Même s'il joue pas, tu sais très bien que sur une grande compétition, tu y joues pas pendant 2-3 matchs, 4 matchs, et peut-être que, tu vas avoir le même genre d'équipe qui va être bien regroupée. Il va falloir mettre des centres. Et là, en effet, dans le profil de joueur, c'est peut-être le joueur le mieux armé de ce côté-là. Mais sur un début de match, c'est pas possible de faire confiance à chaque fois à ce joueur-là qui, depuis des années, ne joue plus en club.
Il faut qu'on s'arrête sur Olivier Giroud. Petite précision, parce que vous avez cité Sébastien Allaire. Il a choisi.
Mais je l'aime bien, hein.
Oui, non, mais pas de souci. Mais Sébastien Allaire, il a choisi la Côte d'Ivoire. Après avoir fait toute toutes les sélections de jeunes et 20 sélections en espoir. Il a choisi la Côte d'Ivoire finalement à 26 ans.
C'est normal.
C'est votre Maxwell Cornet. Voilà, c'est votre Maxwell Cornet. Voilà. C'est pour ça que j'ai attendu avant de vous reprendre. Mais bon, voilà. Dans une seconde, le journal moyen donc dans Roten Régal. À tout de suite.
Jean-Louis, t'as dû.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Roten.
18h47, toujours dans Roten Régal, bien sûr, pour ce dernier quart d'heure, Jean-Louis, de cette première heure. Et qui dit dernier quart d'heure, c'est le moment d'Adrien Higouin.
Exactement. Juste avant, quand même, je vous signale qu'à 19h, il n'y aura pas de multiplex Ligue 1 pendant la trêve internationale. Mais on va faire une sorte de multiplex européen pour évoquer les concurrents des Bleus à l'Euro. Faut-il toujours mettre les Bleus en favori numéro 1 ? 32-16 pour débattre. Mais le voilà, Adrien, pour le journal moyen.
À la une du journal moyen de la semaine dans Roten Régal sur RMC, un joueur du Bayern va peut-être tenir. Jérôme, toi l'ancien parisien. Toi le parisien. Le parisien pour la vie. Manu Amoros, après Boli, Manu allume encore un joueur de foot. Et puis il y a eu du direct cette semaine. Et pendant le direct, il y a toujours quelques saucisses. Et Capitaine Larquet adore ça, adore les saucisses. Tiens, juste avant de commencer cette semaine, vous savez, moi j'adore les anniversaires. C'était l'anniversaire d'un camarade. Oh, tu l'aimes, Jean-Louis, j'en suis sûr. Christophe Dugarry.
Ah bah oui,
cette semaine, il a eu 49 ans, Dugarry. Oui. Il nous a laissé de jolis cadeaux sur RMC.
Que 49 ans ?
49 ans, Dugarry.
Il fait beaucoup plus.
Trop de travail. Alors, il nous a laissé quelques cadeaux, juste pour le plaisir. Ce jour-là, pendant un match, il commentait un match sur RMC, Dugarry. Il cherchait le mot impérial. Deux fois, il a cherché le mot.
Ouais, comment tu trouves Gustavo là sur le but là, Flo? Moi je le trouve pas imparable quand même non plus. Ouais. Il a du mal à se situer, le recul frein il est pas bon, il laisse l'axe complètement ouvert. Je le trouve pas impartial.
Ouais, voilà. C'est le doublé de Dugarry. Je la connaissais pas, mais elle est jolie. 49 ans, un joli doublé ce jour-là. Toi tu fais oui bien sûr. Vous écoutez RMC, il est 18h passé de 49 minutes. Bisous Dugarry.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Roten Régal.
Adrien Aiguin.
De la Ligue 1 sur RMC, Saint-Etienne-Monaco, Edouard G. Non, il n'y a rien de grave. Mais parfois, Edouard, il est sur un fil. Par exemple, là, c'est l'exemple du commentateur qui est sur un fil, mais il ne tombe pas. Edouard.
Je suis désolé, ça fait peur à voir. Parce que Timothée, tu me dis, il reste 7 points. Pas sûr quand même que vous avez terminé devant Nantes et Lorient.
Ah, Edouard. En plus, j'ai. Souvenir Timothée de, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais le derby.
On est sur un fil, ça ne tombe pas. De Saint-Etienne, on file à Monaco, puisqu'il y avait Lille-Nîmes, c'est ça, hein, le choc. Oui. Lille-Nîmes.
Le choc, oui.
Oui, c'est un choc. Nîmes a gagné, donc c'était. Ouais. Voilà. C'est la fin de la pub à ce moment-là, et c'est Cessieux, Christophe Cessieux qui présente la soirée. La pub est terminée, Christophe, on revient, Chris.
RMC, Intégral Foot, Liga Uber Eats.
Christophe Cessieux.
Ouais, c'est l'heure du goûter, donc on retourne tout de suite au stade Pierre-Mauroy. Les garçons, j'ai la bouche pleine.
Ça, c'est du lancement. Merci, Christophe.
Il est incroyable. Lui.
Voilà, Christophe, il a faim. Il était 17h40 sur RMC.
Ouais, je comprends.
Et quand on s'appelle Christophe Cessieux, quand il est 17h40, on goûte. Jean-Louis,
je comprends.
Tu n'as pas lui jeter la pierre.
Bon, évidemment.
J'ai également écouté, moi j'adore cette émission, Jérôme, tu en fais partie, l'after, jingle.
Ouais. Le Big Bang, c'est deux choses qui se cognent l'une contre l'autre pour que ça fasse quelque chose de la terre.
Merci Daniel. Kevin Diaz, ouais. Kevin Diaz dans l'after cette semaine, il nous a sorti sa spéciale. Kevin, il n'arrive pas à s'en sortir. Il nous parle de Kylian Mbappé. Kevin.
Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il sait faire tellement de choses à l'entraînement qu'il a l'impression qu'il faut qu'il les refasse en match. Mais alors qu'il n'est jamais aussi efficace, et c'est pour ça que je le répète, je le dirai à chaque fois, je vais faire comme coach Courbis, ce sera ma maraude. Non. Mais moi, pour moi, je lui enverrai. Je lui enverrai, la marotte.
Ouais, parce que la marotte, c'est.
Ouais, la marotte, c'est ce que je fais dans un moment pour aider les gens.
Tu vas aider les gens.
C'est vrai.
Ça fait 10 fois qu'il ne s'en sort pas, c'est comme ça, c'est la récidive. Et puis, hier dans l'after, est-ce que vous avez écouté l'after hier?
Non.
L'after a décidé hier, comme ça, de manière impromptue, de réviser les animaux de la ferme.
Pourquoi pas?
On fait ça à l'école, moi, ma fille, à l'école primaire, ouais. Elle fait ça, on révise.
Jean-Michel est excellent là.
Par exemple, Jean-Michel, très simple, hein, comme à l'école, c'est qui? Comment s'appelle le mari de la poule? Bah, c'est moi, je sais, c'est le coq. Voilà, c'est comme ça. Oussem Loussaïef, qui a intégré l'after cette saison, a quelques petites lacunes en animaux de la ferme. Questionnaire surprise organisé par Daniel Riolo. Confondant.
La brebis et la femme de qui?
Ah, bonne question. La brebis. Et la femme de qui? Qui est le mari de la brebis? Réponse comme ça, d'Oussem Loussaïef. Confondant.
La brebis et la femme de qui?
Du veau?
Non.
Du beau, du veau. Oh,
du veau. Je me suis pas la sortie ferme.
Moi, je suis arrêté au mouton. Pas plus loin.
Le bouc, c'est le mari de la chèvre.
De la chèvre.
Ouais, c'est la chèvre. Donc le veau, non, c'est pas le mari de la brebis. Bah, qui est le mari de la brebis, Jean-Louis? Ah,
bah, le j'ai entendu dire, ouais, le mouton, j'ai
dit. Non, non, pas ça. Non, le mouton, non, c'est l'espèce.
Non, le... Ah. Ouais.
Ah, le mari de la brebis. Finalement, on s'est moqué d'Oussam hier soir. En fait, on ne sait pas. C'est le bélier.
C'est quoi alors?
C'est le bélier.
Ah bon?
Oui, la brebis.
Bélier, putain, je suis bélier en plus, je devrais savoir
bah
ça.
Bah oui, en fait, il y a l'espèce du mouton. Le petit, c'est l'agneau. Et puis, quand vous parlez d'un troupeau de moutons, dedans, il y a des brebis, des béliers et des agneaux.
Mais voilà, Jean-Michel, t'es pas au courant de ça?
Mais non, pourtant, Jean-Michel, normalement, non, il vit dans une région où il y a des. Non,
il a une ferme.
Ah, il n'y a que des brebis.
Ah, il n'y a que des brebis chez vous?
Ah, et je suis fier de mes brebis.
Eh ben, c'est très bien, on est content.
Ah ouais? Osso Irati.
Ah oui, ça donne du bon fromage.
La pub, j'aime bien la pub.
Ah ben, c'est, oui, c'est le fromage du pays basque et du Béarn.
Sans doute, franchement, j'espère.
Pourquoi tu nous en envoies jamais de celui-là aussi?
Il le mange.
Ouais.
Écoute, je t'ai envoyé du fromage de Savoie, tu m'as même pas dit merci.
Oh, allez, passons.
C'est vrai, il a mangé, il a pas dit merci.
Tu peux l'envoyer à moi, Jean-Mi, envoie-le-moi.
Je te remercie. Non, mais on va se faire. On va se faire sponsoriser. Non,
mais mes parents écoutent, je remercie les gens quand même. Dis pas n'importe quoi non plus.
Il y a un élevé, Jean-Louis.
Il y a un très grand marchand de reblochons qui sponsorise une équipe. Une bonne équipe de football, je me demande si c'est pas Rumilly ou.
Oui, Rumilly, exactement. Ils ont vraiment à parler.
Il y a que ça,
on va aller le voir.
Sûr, il y a que ça de vrai, le fromage.
Voilà.
Direction.
Un bon reblochon bien crémeux.
Canal, après Lyon PSG, Kylian Mbappé. Nous avons fait un bruit bizarre en direct sur Canal.
Ah bon?
Il est pas parfait, Kiki. Kiki, il a des petits défauts. Parfois, il bug, comme tout le monde, après le match. Le bruit bizarre d'Mbappé, s'il vous plaît.
Bah, déjà, on a changé de système. Mmh. Après, chaque coach vient avec sa philosophie. On avait une philosophie. Philosophie de jeu avec Thomas Michel.
Kiki, Laurent Bobineau, écoute, Kiki.
Putain, la philosophie, elle est sortie.
Ouais, c'est curieux.
Coup, d'abord.
Kiki, c'est après. C'est la soupe au chou. Kiki ouais. Mbappé, voilà. Kiki n'est pas parfait. Ça fait plaisir de choper Kiki. Et puis, sans transition, c'est l'instant Manu Amoros.
Ah.
Alors, Manu, il est chaud, ouais. Manu, il est en mode serial killer.
Manu,
en
il pas, ouais.
Il s'est chargé de Basile Boli. Il a demandé où il était, le parisien de Basile Boli, pendant que ça n'allait pas à Marseille. Sur RMC, il s'est chargé d'un camarade. Il a attaqué une voix d'RMC. Manu, nous sommes dans l'intégral foot. Tout part de l'anniversaire d'Antoine Griezmann. Il avait 30 ans, Griezmann. Ouais. Et ça tombe sur un copain d'RMC.
30 ans, Griezmann aujourd'hui.
Ah ouais.
C'est l'anniversaire de Griezmann, de Ronaldinho et de Pierre Dorian. Alors, vous n'y voyez pas Julien, mais c'est l'anniversaire des trois personnes.
Que des grands joueurs de foot, c'est
ça. Oui, des grands, par la taille.
Surtout Pierre. Hein. Comme un défenseur, je te dis pas quel passoire. On l'embrasse quand même.
Je ne laisserai pas dire ça de mon capitaine.
Merci Manu.
Un latéral critique un latéral. Latéral Manu Amoros critique l'arrière c'est droit.
Mais surtout comment il est au courant.
Alors que c'est complètement.
Alors, selon mes informations, il aurait vu jouer une fois Pierre Dorian.
Ah, il l'a vu jouer
Manu,
ouais.
Ah, il l'a vu comme moi. Ouais.
Toi, tu l'as vu, Jérôme? Ça donne quoi, Pierre Dorian?
Moi, en 5 minutes, j'ai
tu l'as mis à la retraite.
J'ai mon avis. Ouais, j'ai repéré. En fait, le problème de Pierre, c'est qu'on m'a dit, ouais, c'est pas mal, hein, tu vas voir, c'est pas mal. Et en fait, je l'ai jamais vu bon. Jamais vu.
Il est meilleur au Moscato Show, quoi, que sur le terrain.
C'est très. Il est très, très mal, ouais, surtout.
Sinon, il aurait fait son métier.
Ouais, voilà.
Merci, Adrien.
À la semaine prochaine.
Dans une seconde, la France. Reste-t-elle favori pour l'Euro, favori numéro 1, le débat dans le multiplex européen, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Roten Régal.
RMC,
18h-20h.
Roten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Roten.
18h59, allez, c'est reparti pour Roten Régal pour cette deuxième heure. Toujours avec Jean-Michel Larquet, bien sûr, Jean-Louis Tour. Jean-Louis, allez, là, on va s'attaquer au multiplex européen. On va faire le tour des équipes qui peuvent lutter avec nous pour l'Euro. Hein, pour
exactement.
La Coupe.
Pour la Coupe du Monde ensuite, mais l'Euro qui arrive cet été. Alors on bouscule un peu nos habitudes. Exactement. Parce qu'on est en trêve internationale, pas de multiplex Ligue 1, mais donc nos spécialistes du foot européen dans une seconde. À 19h30, l'actu du jour et un coup de gueule dans Roten Régal. Il y a un an, Michel Hidalgo nous quittait, et donc un an plus tard, la Fédé n'a presque pas rendu hommage au sélectionneur légendaire. Coup de gueule à venir de son ami de 30 ans. Et on y reviendra aussi avec son ancien joueur Luis Fernandez, qui sera avec nous dans Roten Régal tout à l'heure. Et puis venez vous inscrire pour le quiz de Roten Régal. Ce sera à 19h45. J'espère que vous avez bien révisé, Jérôme et Captain.
Ah oui, ouais. Ah bah surtout Jean-Michel, parce que là,
au téléphone,
ça commence à faire
énorme. Mais, au téléphone,
mais Captain, il y a égalité parfaite
je le
là.
Fais au téléphone.
Mais arrête de crier, il y a égalité avec Jérôme. cette fois, pour une fois.
Oui, téléphone.
Là, ouais. Mais il n'écoute rien, celui-là.
Il est fou.
Il radote.
C'est fou. Je m'en fous. Il a eu trop d'avantages jusqu'à présent.
Et n'oubliez pas l'événement. Qu'est-ce qui se passe après 20h, Captain?
Après 20h,
le rugby.
Et oui, le rugby. Voilà, Jérôme, il suit.
On a parié combien?
Il y a un after rugby même.
Soirée spéciale sur RMC. On a parié, je sais plus, le but, le
l'essai 14.
Non, l'essai d'Olivon, l'essai d'Olivon surtout, t'as retenu.
Et l'essai de, plus l'essai de Charles Olivon.
Bref, soirée spéciale.
Comment
sur
s'appellent
RMC.
Les habitants de Saint-Pé-sur-Nivelle?
Oh, j'ai oublié, un truc qui n'a rien à voir avec Saint-Pé-sur-Nivelle.
Ben, Saint-Pertard.
Oui, ben, ça n'a rien à voir.
Saint-Pertard,
d'accord, très bien.
Voilà,
alors.
Exactement.
L'événement, c'est donc à partir de 20h, soirée spéciale France-Écosse, avec la Dream Team, Denis Charvet, Richard Pouls-Jones et Richard Dourte. Le match en intégralité avec Wilfried Templier et les réactions au coup de sifflet final dans un after rugby exceptionnel jusqu'à minuit. Mais tout de suite, nous, on revient sur le foot et même le foot européen.
RMC, Rotten Régal.
Européen. Alors, on salue nos correspondants de Ligue 1 qui d'habitude sont là pour le multiplex Ligue 1 à 19h. Ils sont tous en train de se reposer.
En repos.
Ils sont remplacés par nos spécialistes du foot européen. Julien Laurence en Angleterre. Salut Julien.
Salut à tous.
Polo Breitner. Salut pour Julien. L'Allemagne. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Jean-Louis. Bonsoir tout le monde.
Et Johan Crochet pour l'Italie. Salut Johan.
Bonsoir à tous.
Alors on va revenir avec vous sur l'actu de vos sélections évidemment et sur votre actu du moment, mais d'abord quand même ça va être intéressant d'avoir votre avis et votre point de vue de vos pays respectifs. La France est-elle, reste-t-elle le favori numéro 1 pour l'Euro? 32-16 pour en débattre. Jérôme, tu réponds oui ou tu commences à avoir des doutes de plus en plus vu la progression de certaines sélections, et est-ce que tu vois des bleus?
Ouais, bon, la progression, après ça n'empêche que les matchs, quand ça compte, la compétition, il y a une préparation qui est tout autre, et donc tu peux pas trop imaginer ce qui peut se passer à travers les dernières prestations des équipes. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France sera logiquement favori pour l'Euro parce qu'elle est championne du monde, et donc ça, il faudra l'assumer. Après, de là à dire, on l'a encore dit sur la première heure, que l'équipe de France domine son sujet, maîtrise tout. Non, il y a des manques. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que les manques, c'est surtout contre les petites équipes qui sont très regroupées. Après, quand tu regardes les dernières prestations contre des grosses équipes, l'équipe de France a souvent été là, quoi.
Ouais.
Donc là-dessus, c'est pour ça qu'elle part encore avec de l'avance sur les nations dont on va parler avec Polo, Julien et Johan.
Capitaine, tu veux ajouter un mot?
Tout simplement, oui, elle est favori puisqu'elle est championne du monde. Est-elle la meilleure actuellement? Non, incontestablement. Ouais. Ce n'est pas la meilleure sélection européenne.
Tu citerais qui comme meilleure sélection?
Je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense que l'Allemagne s'est refait une santé.
Ouais.
Je pense que l'Italie revient en bon niveau. J'imagine qu'un jour, la Belgique confirmera le talent de ses joueurs. Je pense que l'Angleterre est aussi revenue une grande nation, une grande sélection. Il y a beaucoup.
Ouais, bon,
beaucoup
ça fait longtemps qu'on le dit, ça aussi. Hein.
On va en reparler avec Julien dans une seconde. Mais juste sur ce point de vue, la France favorite, c'est le cas dans vos pays respectifs aussi, messieurs, Polo en Allemagne?
La France a une énorme cote depuis quelques années. On ne va pas revenir à 1998. Mais ce qui plaît énormément en Allemagne, un, c'est le sélectionneur qui est très critiqué chez nous. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de style de jeu, évidemment, mais c'est qu'il est quelque part un peu allemand. Je parle des Allemands des années 70-80. C'est qu'il a transmis à ses joueurs cette volonté de systématiquement gagner. Et ça fait beaucoup, beaucoup parler en Allemagne. D'ailleurs, il y a un énorme respect entre Didier Deschamps et Joachim Löw, d'ailleurs, à ce niveau-là. Et et si tu veux, la France aujourd'hui est la référence, parce qu'ils sont évidemment, comme l'a dit Captain, ils sont champions du monde, ils sont champions du monde, oui c'est ça, et ils sont dans le groupe de l'Allemagne, ne l'oublions pas, mais ça se joue en Allemagne. Et donc si je m'arrête juste à ta question, en effet la France est considérée comme le favori pour l'Euro 2021.
Même chose en Italie, Johan?
Même chose, ouais, c'est clairement, l'équipe de France est clairement la favorite. Je regardais un petit peu les enquêtes qui étaient faites, et la France arrive tout en haut, un peu devant l'Angleterre et la Belgique. On ne parle pas trop de l'Allemagne et de l'Espagne en Italie. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Polo, vous savez qu'en Italie, Didier Deschamps est très connu, est passé par le championnat italien, et cette culture de la gagne, comme on l'appelle un peu habituellement, bah, ça plaît beaucoup aussi aux Italiens et ça fait un argument supplémentaire parce qu'il y a le réservoir de joueurs, il y a le fait qu'ils soient évidemment champions du monde, il y a le vécu ensemble qui est très important comparé à l'Italie par exemple. L'Italie n'était pas la Coupe du Monde 2018, la France l'a gagné. Donc il y a un vécu international qui est beaucoup plus important en France qu'en Italie. Donc c'est clairement l'équipe favorite pour l'Euro.
Et côté anglais, Julien, pour conclure le tour.
Même chose, favori chez les bookmakers, déjà en tout cas certains bookmakers, favori aussi chez les observateurs, les journalistes et autres joueurs, entraîneurs. C'est vrai qu'elle impressionne par son efficacité, pas par le style de jeu, mais ça ils s'en fichent les Anglais un petit peu, mais par l'efficacité et puis bien sûr par Kylian Mbappé. Les Anglais partent du principe qu'une équipe avec Kylian Mbappé, elle doit être favorite pour toutes les compétitions pour lesquelles elle va jouer. Donc voilà.
Alors Julien, la sélection anglaise, donc bon, victoire 5-0 sur Saint-Marin, ça c'est peut-être pas forcément le match le plus révélateur, mais est-ce qu'on parle toujours d'une génération prometteuse ou est-ce qu'il y a eu cette Ligue des Nations qui a un peu douché tout le monde?
Non, alors la Ligue des Nations, effectivement, c'était une petite déception, surtout après la Coupe du Monde et surtout après la Ligue des Nations précédente. Mais il y a une génération dorée qui se détache, notamment offensivement. On en a parlé un petit peu hier soir dans l'after. C'est vrai que les choix pour Gareth Southgate en phase offensive, chez les joueurs offensifs, entre Kane bien sûr, mais aussi Sterling, Sancho, Rashford, et puis après tous ces jeunes ou moyens jeunes, on va dire, les Grealish, les Foden, les Mount, les Jude Bellingham, même si lui peut jouer un peu plus défensif, mais qu'on a vu hier pour sa première sélection. Le jeune de Dortmund de 17 ans qui a un talent fantastique. Il y a tous ces joueurs à disposition de Southgate. Le point d'interrogation reste encore effectivement la capacité que Southgate va avoir à trouver la bonne formule, à faire les bons choix parmi tous ces joueurs-là parce qu'il a un réservoir fantastique. Et après, si effectivement ça commence à prendre, les Anglais vont y croire. Mais Polo a fait rire tout le monde hier en disant que les Anglais sont toujours le maillot jaune de la première semaine du Tour de France. Et c'est vrai qu'en général, ils font une très bonne campagne de qualification. Ils commencent en général plutôt bien, et puis après c'est beaucoup plus compliqué pour eux, c'est vrai, mais là ils ont une génération quand même assez fantastique, et c'est vrai qu'il faudra que Southgate, qui a un petit peu la pression sur lui aussi, mais s'il trouve la bonne formule, ça peut vraiment être intéressant pour eux.
Jérôme, tu les vois comment les Anglais?
Oui, mais Julien a bien résumé, ils ont une bonne génération, et tous les joueurs qui jouent sont des titulaires indiscutables dans leur club et des bons clubs en Angleterre. Donc rien que pour ça, et voilà, il a créé une dynamique de groupe, ça se traduit par les résultats et on sent que ils sont contents de jouer ensemble, contrairement à des générations où tu ressentais surtout sur les compétitions par moment ce manque-là. Là il y a ça. Après c'est toujours pareil, les Anglais, t'as beau, et puis c'est pas que les Anglais hein. Des fois tu domines, archi domines tes matchs de qualification et puis t'arrives sur la compétition où là c'est pas la même préparation, c'est pas la même attente, il y a beaucoup de pression et c'est vrai que cette jeunesse par moment bah leur fait défaut, et c'est pas par moment, c'est tout le temps ces Anglais hein, depuis pas mal de générations. Donc voir comment ils géreront tout ça, j'ai encore des doutes de ce côté-là.
On doit libérer Julien Laurence, il me semble. Julien, merci beaucoup.
Merci à vous, messieurs. Bonne fin d'émission.
Et on va enchaîner avec l'Allemagne. Alors, on rappelle quand même que l'Angleterre joue dimanche en Albanie pour le match de ce week-end. Et on va passer à l'Allemagne, donc victoire 3-0 face à l'Islande. Et effectivement, on a l'impression du retour du rouleau compresseur, Polo.
Alors, il y a plusieurs informations qui sont très très importantes. Un, tu as tout à fait raison, l'Islande n'a pas existé hier, mais surtout l'Allemagne a marqué dès la deuxième minute, et lorsqu'on parle d'efficacité, c'est ce qu'on reproche notamment offensivement à l'Allemagne depuis, on va dire, l'avant-Coupe du Monde 2018. Et hier, c'était assez impressionnant la façon dont les Islandais étaient menés 2-0 après 7 minutes, et par un style de jeu qui fait extrêmement plaisir. La deuxième information qui est très importante, c'est qu'en Allemagne, on parle d'un redémarrage pour un nouveau départ suite à l'annonce du départ justement du Bundestrainer Löw après l'Euro 2021, comme si cela avait libéré un petit peu cette génération. Éclatons-nous pendant l'Euro et on verra bien ce qui se passera après. Et la troisième chose, c'est que ce match était plus important qu'on veut le dire, notamment pour les têtes, parce qu'on sortait d'une claque reçue face à l'Espagne le 6-0, et il fallait absolument montrer qu'on était capable. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tout le monde est content, y compris Uli Hoeneß, donc il faut le saluer. Donc la presse est dithyrambique, Olympique, on a retrouvé quelque chose, on a joué en 4-3-3 qui pose d'autres types de questions, puisque Gundogan est évidemment dans la forme de sa vie, on a le milieu du Bayern avec Goretzka et Kimmich, quid de Toni Kroos qui est théoriquement un titulaire, quid d'Havertz qui était titulaire hier, mais on sait que ça va être Werner, qu'est-ce qu'on fait avec le retour des anciens Thomas Müller, voire Jérôme Boateng en défense, ça change beaucoup de choses, mais en fait, si vous, c'est des questions entre guillemets positives, et ça, la prestation de hier, qui évidemment est à confirmer, a fait que, on va dire que la presse allemande au minimum a retrouvé le sourire.
Ouais, ça on peut le comprendre effectivement, et surtout quand on voit le 11 quand même allemand, enfin moi je trouve qu'il fait peur, hein, Polo.
Il fait peur, je réagis là-dessus, il fait peur, mais bon, Havertz, c'est, même si ça va mieux depuis deux matchs avec Chelsea, il est en difficulté cette saison.
Polo pense à qui à la place de
Havertz? Ça n'est pas
Werner, oui.
Puis Sané n'est pas un titulaire indiscutable au Bayern aussi, avec Gnabry et Coman. Voilà, ça reste des bons joueurs, mais je suis désolé, moi, une sélection qui gagne des grandes compétitions, en général, c'est que les 11 joueurs sont des titulaires indiscutables et brillent dans leur club.
Ça peut s'entendre. On va continuer. Oui, comme Giroud, bien sûr. Non, mais Giroud, il joue pas. On t'a dit qu'il jouait pas. Il a mis 11 buts, mais il joue pas. Voilà. Dans une seconde, on continue sur l'Allemagne.
Face à la Coupe du Monde, combien de buts il avait marqué, Giroud?
Un, mais Mbappé lui a piqué. On continue sur l'Allemagne dans une seconde et on parle de l'Italie également. La sélection italienne et également ce qui s'est passé au niveau des droits télé en Italie. Johan Crochet va nous en parler dans une seconde. À tout de suite dans Roten Régal.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Roten.
19h13 toujours dans Roten Régal, bien sûr. Allez, on continue, Jean-Louis, avec Jean-Michel Larquet, bien sûr, avec le multiplex européen et nos correspondants.
Exactement. Et ne ratez pas à 19h30 le coup de gueule dans Roten Régal d'un ami de 30 ans de Michel Hidalgo qui nous a quitté il y a un an et qui déplore que la Fédé n'ait pas rendu un hommage à la hauteur de l'ancien sélectionneur des Bleus. Ce sera tout à l'heure à 19h30. Mais donc on est toujours avec Johan Crochet et Polo Breitner pour évoquer les sélections étrangères. On était donc sur l'Allemagne. On oublie totalement Polo, puisque je reviens sur les résultats. Le 6-0 en Espagne, le match précédent, alors ça commence à remonter, hein, c'était il y a longtemps, mais il est quand même encore dans les têtes ou pas?
Il est dans les têtes dans le sens où ça concluait un cycle, on va dire, qui a commencé pendant la Coupe du Monde 2018, qui a continué pendant les tournois allemands qui ont été extrêmement délicats. On considérait que le match contre l'Espagne n'était pas important. Puis quand tu prends 6-0, tu te rends compte que c'est important quand même, rien qu'au niveau du mental. C'est-à-dire que les Espagnols peuvent se servir de cette victoire pour construire quelque chose. Alors celui qui a le plus dédramatisé, c'est évidemment Yogi Löw, parce qu'il a considéré que ce n'est pas, que ça peut arriver une fois de temps en temps comme ça. Mais si tu veux, le problème, c'est que depuis l'échec de la Coupe du Monde 2018, il a essayé différents schémas de jeu, il a essayé différents joueurs, et on n'arrivait pas exactement à voir ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire qu'on est passé d'une domination, de possession ultra, on va dire, de l'équipe d'Allemagne à un jeu, entre guillemets, à la française, beaucoup plus solide, où on se mettait en contre. Donc, si tu veux, c'est tu peux pas du jour au lendemain changer comme ça. Il a évidemment banni, entre guillemets, les anciens, Thomas Müller, Hummels, Boateng, etc. Certains sont partis d'eux-mêmes, je pense à Mesut Özil, évidemment. Mais si tu veux, on ne savait pas trop où ils voulaient aller. Et puis, n'oublions pas que Yogi Löw, ça fait longtemps qu'il est là. Donc les gens, que lorsqu'ils ont reçu l'information comme quoi il a finalement arrêté après l'Euro 2021, eh ben on s'est dit, peut-être que ça va être le moment de changer et de faire un petit spectacle lors de l'Euro 2021. Et donc, cette défaite contre la 6-0 contre l'Espagne, ça a permis, si tu veux, aux gens de se dire, oula, on est encore friable. Mais quand même, le match de hier, évidemment, contre l'Islande, et évidemment, ce n'est que l'Islande, a permis de se dire, oula, il y a quand même des choses assez intéressantes. Et ce qui est très intéressant, et ce qui est noté dans la presse allemande, c'est que, un, le groupe est derrière son sélectionneur, comme on en dise, et deux, ils ont retrouvé une forme physique qu'on n'avait peut-être pas vue depuis longtemps. Et ça, moi, je pense que c'est très, très important.
Vous pensez, Jean-Michel et Jérôme, que le fait que son destin soit déjà scellé, qu'on sache déjà qu'après l'Euro, ce soit terminé pour lui, ça peut changer les choses positives pour son équipe, ou ça change pas grand chose?
En tout cas, les choses sont claires pour les joueurs. Je sais pas si ça change grand chose. Reste quand même que c'était l'Islande. Je crois que l'équipe de France, lors d'une compétition officielle, avait réussi à mettre 5 buts à l'Islande,
l'Euro 2016.
Semble-t-il, à l'Euro 2016. Donc l'Islande, c'est quand même 500 000 habitants. et on peut pas avoir une sélection islandaise qui tient la dragée haute à une équipe qui a, je sais pas, 80 millions d'habitants en Allemagne,
oui, c'est ça.
À peu ouais. près, voilà. Donc, c'est quand même 3-0, c'est pas non plus une victoire exceptionnelle. Bon, c'est vrai, au bout de 7 minutes, il y en avait déjà deux dans la cage islandaise. C'est mieux pour les Allemands. Ça ne me semble pas être redevenu l'équipe que l'on avait battue par miracle 1-0.
Quand ?
Lors de l'Euro ?
Non, 2-0. À l'Euro 2016 ?
2-0. Oui. 2-0.
Oui, mais bon, par miracle, on avait galéré.
Ah oui, oui.
La France avait été supérieure, moi.
Ah bah oui,
nous, moi, je pense mi-temps.
Ah, la première mi-temps, on avait une leçon, Polo.
Ah, je pense qu'on avait un petit peu galéré. Enfin, peu importe, on l'avait gagné. Mais l'équipe me semblait meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il me semble que l'équipe d'Allemagne est sur le chemin du renouveau. Elle n'est pas encore la grande Allemagne que j'ai connue lors de la Coupe du Monde au Brésil, par exemple.
Ouais. Bon, elle peut pas encore l'être parce que c'est la nouvelle génération, c'est des jeunes joueurs. Alors il reste des anciens, hein, bien sûr. Hein, et Paulo nous le disait, mais t'as quand même un milieu de terrain qui est. Je pense que quand ils auront tous trouvé leur position, Goretzka, Kimmich, Gundogan, c'est vraiment très solide. Gnabry, Sané. Bon, je disais que ça n'était pas titulaire, mais ça reste quand même
Werner. Tu avais peur quand même.
Oui, non, mais après c'est toujours pareil. T'as les individuels, t'as les noms qu'on met en avant parce que ces joueurs-là sont capables de briller dans leur club. Après en sélection, il y a aussi
pour en faire un collectif, etc. Contraire.
T'as le poids de la sélection aussi en Allemagne.
Il y a quand même une grosse ossature Bayern et il me semble quand même que de ce côté-là c'est un avantage pour se refaire une santé. Pardon.
Et l'avenir du sélectionneur, Jérôme. Ça va loin. Jérôme, je reviens sur ma question sur le sélectionneur, qu'il ait clarifié sa situation, son avenir, ça change quelque chose pour les joueurs ?
Il était temps, hein, de toute façon, parce que.
Ah, mais du coup, c'est plus un sujet. Son avenir, le fait qu'il soit là depuis trop longtemps, qu'il soit usé, etc. Enfin, j'imagine que c'est moins un sujet en Allemagne.
Pardon, monsieur.
Vas-y, Polo.
C'est passé à moins un sujet en Allemagne, parce qu'en fait, Jérôme l'a très bien dit, ça suffisait, quoi. C'est-à-dire, la Coupe du Monde 2018, c'est compliqué. Les deux années après ont été compliquées, notamment pour des qualifs, ou des matchs contre des grosses équipes, etc., où on est que l'Allemagne est capable d'aller l'emporter aux Pays-Bas, puis ils font n'importe quoi à domicile. Il y a des choses comme ça, qui fait que si tu veux, ce qui a été ressenti en Allemagne, c'est merci Yogi de nous avoir revenus sur le toit mondial en 2014, mais maintenant tu passes la main, quoi. C'est-à-dire, c'est ça qu'on attendait un petit peu.
Salut
Yogi. Oui, le Yogi, c'est comme ça, Joachim, c'est Yogi.
Bien sûr.
C'est un ami.
et donc, en fait, bon, évidemment, aujourd'hui, il y a qu'est-ce qu'on va faire après 2021 ? C'est très spéculatif. Bon, moi, je suis quasiment sûr que ce sera l'actuel coach du 21 qui le sera, d'ailleurs, Stefan Kunz, qui sera Bundestrainer. Mais c'est sûr que ça a fait du bien.
Très bien. On laisse l'Allemagne de côté. On part en Italie ? Ça vous va ? Victoire 2-0 sur l'Irlande du Nord, donc. Et je regardais l'Italie qui enchaîne pas mal de victoires quand même, Johan.
Ils en ont enchaîné 10 lors de la phase de qualification à l'Euro. 10 victoires en 10 matchs. C'était pas un énorme groupe, puisque je rappelle, il y avait la Grèce, la Bosnie, la Finlande, le Liechtenstein aussi de mémoire. Mais bon, quand même, 10 victoires en 10 matchs, c'est assez rare pour être
Nous, on est sûr de pas le faire, là, sur cette campagne.
Ouais, exactement. Et l'Italie, c'est peu habituel aussi, en phase de qualification. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a mis en place Mancini, c'est-à-dire que, rappelez-vous qu'il arrive après l'énorme échec de 2017, c'était les playoffs pour la qualification à la Coupe du Monde 2018. L'Italie ne fait pas la Coupe du Monde. C'est un vrai problème. Il y a un énorme échec. Il y a même un désamour avec les supporters. Et Mancini arrive à amener des jeunes joueurs, amène du jeu, amène une équipe un peu plus proactive avec de la prise de risque, avec un football assez attractif. Et en fait, ça a matché assez vite. Et notamment, les jeunes joueurs se sont très vite approprié cette équipe nationale. Je pense à Nicolò Barella. Je pense même à Locatelli qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps, Spinazzola sur le côté gauche, Donnarumma dans les buts, c'est réglé, il a très bien pris la suite de Buffon, Lorenzo Insigne qui est devenu un patron aussi de cette équipe là. Donc il y a tout un travail qui a été fait de manière très intelligente et très fluide en fait, et ça porte ses fruits. Alors là, le match contre l'Irlande du Nord, honnêtement, les Nord-Irlandais sont venus avec une défense à 5, avec beaucoup de densité, etc. Ils ont plié ça en première mi-temps grâce à des buts de notamment d'Immobilier et de Berardi, mais la deuxième mi-temps était plus poussive. On a senti une Italie qui essayait de gérer, sauf qu'elle sait pas gérer encore, elle a pas l'expérience pour le faire, le vécu international. Prenez des joueurs comme Locatelli, comme Barella, comme même Lorenzo Pellegrini de la Roma. Quelle est la réelle expérience, rien que européenne, au-delà même d'international, de ces joueurs-là qui étaient les titulaires au milieu de terrain. Donc même de Domenico Berardi, etc. Donc voilà, Mancini.
Mais le milieu là. Johan, je te coupe, mais le milieu qui a été mis en place là contre l'Irlande du Nord, donc c'est Locatelli, Verratti et Pellegrini, c'est ça.
Pellegrini, ouais.
C'est ça. En fait, il y avait pas. Si la question, j'essaye de devancer ta question sur Barella, peut-être.
Ouais. Vas-y.
En fait, si tu veux, il est arrivé après les autres au rassemblement parce que l'Inter, il y avait beaucoup de cas de Covid. Et en fait, ils ont eu l'autorisation des autorités sanitaires italiennes pour se rendre au stage. Un peu à la dernière minute. Donc il a pas voulu le mettre sur ce match-là titulaire. Il est rentré en deuxième mi-temps. Il est rentré à l'heure de jeu. Mais voilà, ça veut pas dire que Barella a perdu sa place. Bien au contraire.
Non, c'était. Et Jorginho, j'étais étonné de pas le voir.
Et Jorginho, lui, était absent. Il est pas au rassemblement. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y avait un milieu de terrain un peu new look qui a pas forcément été exceptionnel. C'est plutôt devant que ça a été plutôt pas mal avec Lorenzo Insigne notamment. Florenzi fait un bon match, mais voilà, c'était une victoire tranquille. On attend de voir. De toute façon, ce groupe-là, je suis pas sûr qu'il nous apporte beaucoup de réponses parce que au-delà de ce match contre l'Irlande du Nord, il y a ensuite la Lituanie, la Bulgarie dimanche, la Lituanie mercredi prochain, et ensuite par contre il y a un révélateur qui devient un peu plus intéressant avec la Suisse.
Très bien. Vous voulez ajouter un mot sur l'Italie, messieurs?
Non, moi,
c'est dommage, mais on est quand même loin des grandes équipes de l'Italie, et ils ont besoin quand même de retrouver quelques grandes stars. Bon, on va pas jouer les anciens combattants, mais bon, quand on voit l'équipe d'aujourd'hui et celle qu'on a connue auparavant, il y a encore un tout petit peu de chemin à parcourir.
Ah oui, totalement, t'as tout à fait raison, Jean-Michel, il y a un vrai chemin encore à faire. Et puis, faut pas oublier que là, les stars, en quelque sorte, c'est la charrière centrale, c'est Chiellini, Bonucci, c'est-à-dire des joueurs d'un statut international. Et c'est les vieux, donc ils vont pas tarder à passer la main.
Comme sur RMC.
Donc il va falloir trouver aussi une nouvelle assise défensive. Donc il y a encore un long chemin, mais c'est prometteur.
Très bien. Et puis Johan, profitons de ta présence quand même, parce qu'il y a eu une nouvelle importante. Ça pourrait peut-être avoir des conséquences à un moment sur d'autres marchés. Mais donc il y a eu l'appel d'offres pour les droits télé en Serie A pour la période 2021-2024.
Non.
Oui, Captain. Et, alors, c'est pas Mediapro qui a gagné. C'est une plateforme de streaming qui a gagné, DAZN.
Exactement. Alors, pour info, Jean-Michel, Mediapro a fait une offre sur les droits internationaux pour la Serie A. Voilà, petite D'accord. info au passage. Mais oui, c'est DAZN qui a remporté les droits nationaux. 840 millions d'euros. Alors, ils ont pas tout. Ils ont 7 matchs en exclusivité et 3 en co-exclusivité. Donc, ils ont quasiment tout. Mais ils ont offert 840 millions d'euros. Il reste un petit paquet à obtenir. C'est les 3 matchs en co-exclusivité. Qui va les diffuser? Sky Italy, qui est le partenaire historique, ça fait 20 ans qu'il diffusait la Serie A, a proposé 70 millions d'euros, mais ça négocie, ça n'a pas été accepté aujourd'hui, sachant que l'appel d'offres, la validité se termine lundi, donc si lundi on n'a pas d'accord sur ce paquet-là, il est remis en jeu sur un nouvel appel d'offres, pardon, et il y a d'autres diffuseurs, je cherchais le mot, qui sont intéressés. Donc on pourrait encore grappiller quelques millions.
D'accord.
Mais pour vous faire simple, il y avait 973 millions d'euros entre 2018 et 2021. Là, aujourd'hui, alors, il y a 840 millions d'euros, 70 millions d'euros à peu près garantis par Sky, mais ça peut être un peu plus, 910. Mais Jean-Michel, il y a un truc que les gens oublient, c'est que entre 2018 et 2021, la Serie A versait 55 millions d'euros à Infront, qui avait agi comme conseiller lors de l'appel d'offres précédent. Ouais. Et là, ils ont fait 100 Infront. Donc, tu rajoutes encore 55 millions d'euros que tu ne vas pas dépenser, et tu arrives quasiment à ce qui était proposé avant. Et oui, la seule crainte qu'il y a sur DAZN, c'est les infrastructures en Italie. Alors, ok, ils se sont associés à Telecom Italie, TIM, mais en Italie, vraiment, les infrastructures Internet sont bien loin de certains pays européens, à commencer par la France, par exemple. Ouais. Donc, il y a quand même une petite crainte sur est-ce qu'on va vraiment recevoir les matchs du championnat italien en bonne qualité, sans bug, etc. Il y a, quand même petite crainte sur le passage au 100%.
Un noir et blanc, c'est bien.
Bien sûr, Polo.
DAZN. Bon, moi, je suis un grand fan de DAZN, par exemple, au niveau de la.
Ils font du très bon
boulot de qualité, formation des images, etc. La deuxième chose, c'est ce que dit Johan, est très important, mais ça confirme ce qui s'est passé en Allemagne, où on savait pas trop si c'était entre guillemets une défaite ou pas, la baisse des droits de télé pour l'année prochaine, à partir de l'année prochaine. 2021-2025, ils avaient baissé de 5%, en globalité par rapport à 2017-2021. Ce que je constate, c'est que la pandémie et les choses comme ça fait que comme si on avait atteint un plafond de verre au niveau des droits de télé nationaux, en tout cas. C'est-à-dire que ça se joue à presque rien, en fait.
Tu sais, Polo, qu'en Italie, il y a plein de présidents qui ne pensaient pas arriver à un tel montant.
Exact. Et ben c'est la même chose en Allemagne. Les 5% de baisse, si tu veux, c'était considéré comme un miracle. Quoi.
D'accord. Merci, messieurs. C'était passionnant. Johan Crochet.
On est à 5%. Non, on n'est pas à 5%.
Nous, on est un peu plus que 5%. Ouais. Mais il y a eu d'autres problèmes. Il y a eu d'autres soucis.
Nous, je crois que le plafond de verre, il a craqué, nous.
Oui, c'est ça.
Il a explosé, ouais.
On revient, nous, c'était le plancher de verre qu'on avait explosé. Donc, on a dû creuser. Dans une seconde, la Fédération française de foot a-t-elle un problème avec son histoire? Michel Hidalgo nous a quittés il y a un an. Très peu d'hommages rendus pour le sélectionneur. On en parle dans une seconde dans Rotten Régal. À tout de suite.
RMC 18h-20h Rotten Régal. Jean-Louis Tour,
Jérôme Rotten.
19h30 toujours dans Rotten Régal pour cette dernière demi-heure. Et Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet, ma compagne, sont toujours là. Et Jean-Louis, on va parler maintenant de Michel Hidalgo.
Exactement, et puis je vous rappelle qu'il y a le quiz à 19h45, vous pouvez faire le 32-16 pour vous inscrire.
Oui, allez-y.
Faire équipe avec Jérôme ou avec
Mettez-vous Captain. À deux avec Jean-Michel.
Et on verra qui gagne à la fin. On reviendra aussi dans une seconde sur l'actu du jour. Stéphane Moulin a annoncé son départ d'Angers après 10 ans au club, donc il ne sera plus l'entraîneur la saison prochaine. On en reparle dans une seconde. Mais tout de suite donc, on voulait revenir sur Michel Hidalgo qui nous a quitté il y a un an, le 26 mars 2020, à la de 87 ans. Michel Hidalgo, sélectionneur de l'équipe de France, vainqueur de l'Euro 84, notamment la demi-finale de Séville en 82. C'était avec lui également à la tête de l'équipe de France. Et pour revenir sur ce qui s'est passé depuis un an ou ce qui ne s'est pas passé, on est avec Nicolas Philibert, qui est un ami de longue date de Michel Hidalgo. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Et Luis Fernandez, ancien joueur bien sûr de Michel Hidalgo. Ouais. Salut Luis.
La légende, bien sûr.
Salut Luis. Légende du foot français et d'RMC, bien sûr.
Bonsoir, monsieur.
Légende.
Ça bien va, sûr. Luis
hein. De tout.
Bah, avant d'avoir.
Oui, ça va très bien. Je suis chez moi, je suis en Espagne, je suis à Tarifa. Tu vois
ah, très bien, Luis.
Ah, on profite.
Alors,
les amis.
Alors, Nicolas Philibert, il me semble que vous êtes donc agacé vis-à-vis de la Fédération française de foot, car il y a eu, j'allais dire, très peu, voire aucun hommage rendu à Michel Hidalgo depuis un an.
Oui, je pense que Michel Hidalgo, qui avait cette popularité avec les gens parce qu'il a toujours aimé l'équipe de France, mais qui a servi pas seulement l'équipe de France, mais la Fédération française de football pendant 30 ans, n'a pas eu, à mon avis, la reconnaissance qu'il aurait mérité de la fédération. Il n'y a rien eu de la fédération à part le communiqué du président de la fédération lorsque Michel nous a quittés. Mais sinon, jamais rien eu. Après le départ de Michel, le 5 septembre, il y a eu un Suède-France. Le 7 octobre, il y a eu un France-Ukraine. Il n'y a rien eu, aucune organisation. Michel, c'est pas rien. C'est pas n'importe qui vis-à-vis de la fédération.
Bien sûr. Ben ça, c'est, à mon avis, personne ici va vous dire le contraire. Mais que dit la Fédé sur ce dossier? J'imagine qu'il se réfugie derrière la pandémie et la crise du Covid.
Il n'y a pas d'excuse parce que même si je ne veux pas faire de polémique, lorsque Michel a commencé à être fatigué, j'ai sollicité la fédération. Ouais. J'ai eu sa directrice qui m'a répondu une seule chose. Mais M. Hidalgo n'est plus à la fédération depuis longtemps, ça ne nous concerne pas.
C'est pas vrai.
Et pourtant, ce n'était pas grand-chose ce que je demandais. C'est un peu personnel, mais.
C'est dingue. Attendez, excusez-moi. On vous a fait cette réponse. Et juste, il n'est plus à la fédé.
Et heureusement qu'il y a la famille du football, qu'il y a Jean Tigana, président du CIF, qui a été exemplaire. Absolument. Qu'il y a Henri-Émile, le formidable Henri-Émile, qui est loyal, qui est fidèle en amitié.
Justement, à ce sujet-là, j'ai eu un petit mot d'Henri, de Riton, qui dit qu'aujourd'hui, il devait rendre hommage à Michel. Oui. et que la cérémonie est reportée au 26 juin dans les salons du Stade Vélodrome, à l'initiative du Club des Internationaux de France, dont je fais partie, et qui est dirigé par Jean Tigala, et pourra mener l'urne de Michel à la nécropole de Vaudrans. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, puisque le club des internationaux français qui essaie de faire vivre, parce que chez les internationaux, et Michel en était un, et Michel était à l'initiative de l'UNFP, il a été à l'initiative de beaucoup, beaucoup d'organisations. Le club des internationaux français a été l'objet d'une enquête interne, et toujours de la même personne que vous avez citée. Et Jean Tigana avait d'ailleurs été mis un petit peu sur le grill par la directrice de l'équipe de France pour des raisons obscures. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un vrai problème de ce côté-là. Je ne le connais pas, mais il y a un vrai problème de ce côté-là.
Mais alors, donc ça ne t'étonne pas, Capitaine, mais j'imagine que ça vous révolte, non ? Louis, ça doit te révolter d'entendre ça.
Je vous écoute, là, c'est très attentivement. Je t'ai entendu dire de la pandémie. Il n'y a pas longtemps, au Parc des Princes, il y a eu le décès de Gérard Houllier. On a bien affiché une belle photo de Gérard, tu sais, pour se souvenir de cet entraîneur.
Il y a des choses à faire, bien sûr.
C'est scandaleux. Je veux aussi te souvenir que M. Florentino Pérez, grand président du Real de Madrid, quand M. Raymond Kopa est décédé, il a pris un avion, il est venu à l'enterrement de M. Raymond Kopa. Il a même fait déplacer de Angers pour aller là-bas à Madrid, quand il a eu à recevoir les 5-6 ballons d'or que le Real de Madrid avait. C'est un oubli, ça manque de respect. Ça manque de respect pour qui ? Vis-à-vis de qui ? De M. Michel Hidalgo, l'homme qui a contribué, l'homme qui a fait. Alors, Jean-Michel en a dit du bien, et j'en dirai encore plus, parce que moi, je l'ai eu en 82 novembre, et quand je suis rentré dans cette équipe de France, j'ai eu l'occasion de le connaître, de le côtoyer, de savoir ce que c'était un grand monsieur. Un grand monsieur qui, depuis 78, quand Stéphane Kovac est arrivé bien avant, après, il a pris la relève.
Il était son adjoint, oui.
Adjoint et pour amener cette génération, Michel Platini, Tigana, Gires, Batiston, Bossis, tous ces grands joueurs avec lesquels j'ai eu la chance de jouer. Et vous êtes en train de dire quoi ? On te dire tout simplement que c'est lamentable, c'est scandaleux, que ça manque de respect. Un manque de respect, parce qu'en Espagne, en Italie, en Allemagne, ils ne risquent pas de les oublier, les grands, parce qu'ils les ont toujours su faire avec eux quand ils ont eu des problèmes ou des soucis. Et nous, en France, on ne sait pas le faire. Excusez-moi, c'est comme ça, c'est trop dur à le dire, mais c'est la France. C'est la France où il n'y a pas la culture du football, où il n'y a pas la culture par rapport à...
Non, ce n'est pas la culture du football, ça, Louis. C'est le respect, tout simplement. Oui, c'est le respect.
Il n'y a pas de culture, Jean-Michel, où je dirais tout simplement, c'est que toutes ces instances que l'on a, les instances aujourd'hui qui ont voté encore pour le président qui est là, avec aussi la réélection de Monsieur Raymond Domenech aussi, voilà, c'est quoi, c'est tout est bloqué, tout est concentré sur une seule personne.
La réponse, Louis. Et oui, hein. Oui, 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 oui.
Alors, Raymond Domenech, c'est à l'UNECATEF faisais référence à Noël Le Graët à la tête de la Fédé, bien sûr.
Bah oui, à la tête de la Fédé, avec tous les grands électeurs, avec lesquels qu'il a su mettre sous sa poche ou sous sa main pour qu'il puisse être réélu. Voilà. Et puis, si t'as pas des hommes à la tête du football qui puissent remettre un peu de l'ordre, ce genre de situation, comme on parle de Michel Hidalgo, pour moi, c'est très grave. Voilà, c'est tout.
Jérôme?
Ouais, non, mais je peux pas contredire tout ce qui a été dit par Jean-Michel, par Louis. Ils le connaissent bien plus que moi, Michel, même si j'avais eu l'occasion d'échanger avec lui du football, de sa passion, et que voilà, quand tu, même si c'est pas ma génération, moi, c'est ces hommes-là qui m'ont donné envie de jouer au football et de porter ce maillot de l'équipe de France. Dire il y a des personnes clés. Alors moi, il y a plusieurs choses qui me choquent. Déjà, le discours qu'on a pu donner.
La réponse à Nicolas Philibert qui avait sollicité la Fédé. Donc, Florence Ardouin, la directrice générale de la Fédé.
Non, mais ça, c'est pas possible. Ça, tu peux pas accepter ça. Ça,
mais si, c'est possible. Dénoncer.
Non, il faut dénoncer tout ça.
Moi, je m'en remets pas non plus, je suis d'accord.
Non, mais ça, c'est incroyable. Après, que par rapport à la pandémie, mais là, je rejoins Louis, dire des choses, les clubs ont pu en faire ces derniers temps, parce que beaucoup de clubs ont été impactés, malheureusement, par la perte de beaucoup de personnes. Ça s'est accumulé sur cette dernière année. Donc, tu peux faire un hommage. Après, s'il a fait des...
Jérôme, il y a eu Ukraine-France, là, il y a 3 jours, non?
Peut-être, mais après c'est un terme de communication. Peut-être qu'ils veulent faire ça bien. Du moins, j'espère juste que c'est ça. Ils veulent faire ça bien avec du monde et tout ça.
On n'a pas eu les retours et te dis Jean-Michel.
Oui, mais c'est pour ça. C'est décevant.
Ils veulent pas faire les choses. Ils ont mal fait. Ils ont très très mal fait. Voilà.
Ils n'ont rien fait. Et la pire des choses dans la vie, c'est l'indifférence. Là, c'est terrible.
D'ailleurs, je le dis,
je ne suis pas du tout objectif. Bon, je ne l'ai pas été souvent, mais Michel m'a donné le brassard de capitaine de l'équipe de France. Je l'ai vu.
Il n'a pas fait que des bonnes choses.
Non, certainement. Mais en tout cas, pour moi, c'est un souvenir inoubliable. Quand vous êtes déjà avec le maillot de l'équipe de France et qu'en plus, vous avez le brassard, et vous, évidemment, la personne qui vous a donné cette confiance-là, vous lui vouez une estime. Gigantesque. Et vraiment, je suis triste et révolté.
Nicolas Philibert.
Oui, Jean-Michel, je vais vous apprendre quelque chose. Est-ce que vous savez qu'en 82, lorsque Michel Hidalgo a parlé de sa succession avec Fernand Sastre, il a coché trois noms : celui d'Henri Michel, celui de Jean-Marc Guillou et celui de Jean-Michel Larquet. Oh. Vous étiez les trois noms sur lesquels Michel pensait pour sa succession. Vous ne le saviez pas ?
Pour être sélectionneur de l'équipe de France ?
Oui, je le savais, pour être le successeur de Michel Hidalgo en 84. Parce qu'à l'occasion de déplacement, j'étais à Châteauroux. Et effectivement, celui qui était président à l'époque de la Ligue de football professionnel et qui à l'époque avait encore mon téléphone m'avait appelé pour éventuellement.
Mais c'est après ton passage.
C'était après mon passage au Paris Saint-Germain, victorieux au Paris Saint-Germain, pour apporter un peu de sourire. Oui. Louis, au Paris Saint-Germain, on s'est régalé tous les deux. Hein? tu te rappelles, tu sais pourquoi je t'ai pas fait jouer en pro, tu le sais, Louis?
Je me souviens pas trop, mais je travaillais. Je ne disais rien, incroyable.
Louis, tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait le problème des étrangers.
Oui, t'as raison. Louis était encore espagnol.
Sinon, avec sa maman, si t'aimais pas Louis, c'est ton problème. Nous, on l'a aimé.
Louis, il aurait joué. Et les gars, j'ai fait jouer le mou, j'aurais pu faire jouer Louis.
T'étais aussi bon que Domenech, toi.
Non, mais attendez, si on repart sur les anciennes histoires, Louis, Jean-Michel, on est obligé de vous passer ça.
Écoutez.
Louis Fernandez, qui a la qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme. Oui, mon petit bonhomme, bravo, messieurs.
C'est gentil de faire passer ça, mais aussi une pensée pour Henri Michel aussi, parce que c'était Henri Michel qui était l'entraîneur de cette équipe en 86, et une pensée aussi pour lui. Et puis tu sais, quand on a fait l'hommage à Henri Michel à Nantes, il y en a qu'un seul qui ne l'a pas eu comme joueur ou qu'il n'a pas joué avec lui, c'est Zizou qui est venu, toi. Et je me rappelle que ce jour-là, il n'y avait pas le président de la fédération, il n'y avait personne, des instances. Hein. Alors pour ça encore, si je voulais me remuer encore, me remonter encore, et déjà je suis à suffisamment remonter.
Ça va.
Je préfère me taire parce que je commence à avoir assez de ce genre de situation où on oublie, et l'oubli pour moi, à jamais Michel Hidalgo, à jamais Henri Michel, sont des gens qui ont participé, qui ont contribué pour que je puisse devenir, que je puisse être ce que je suis devenu plus tard. Voilà, sur l'équipe de France. Voilà.
Écoute, Louis, le message est passé, c'était le plus important. Merci d'être venu. Et Nicolas.
Bonnes vacances à Tarifa dans le berceau familial, Louis.
Je rentre demain, je repars demain, je suis resté une semaine.
Bon, ça va, salut Louis. Hasta luego, salut Louis. Oui, Nicolas, vous voulez ajouter un mot.
Parle pas trop espagnol avec Jean-Michel parce qu'il comprend rien.
Nicolas Philibert, oui, bien sûr.
Permettez une petite anecdote qui vous dénotera la relation qu'avait Michel avec ses joueurs. Lorsque Michel était fatigué, je mangeais tous les midis avec lui et Monique dans la cuisine. Et j'avais un deal avec Amoros, avec Giresse, avec Rosto, avec Fernandez, avec Lacombe, avec Jean-Claude Darmon. Et quand Michel n'était pas trop mal à midi, je leur envoyais un texto en cachette en disant « Vous pouvez m'appeler, Michel est bien ». Et un jour, Rosto me dit « Je vous appelle dans 5 minutes, je me gare ». Dominique Rosto me téléphone et je faisais l'imbécile. Et je disais à Michel, tiens Michel, j'ai Dominique Rosto au téléphone, il veut prendre de vos nouvelles, je peux vous le passer ? Michel disait oui. et je lui passe Rocheteau, et je devine dans sa conversation que Rocheteau est surpris parce que Michel avait une bonne voix, il était agréable, et qui lui a dit, Michel, c'est bien, je suis content. Et Michel lui dit, oh, tu sais, Dominique, je ferai pas chanteur demain, hein, tu veux plus que je fasse du foot, ma voix, elle est comme elle est. Et puis, Michel raccroche au téléphone après 3 ou 4 minutes et se met à pleurer. Et Monique et moi, on est surpris, on lui dit, mais Michel, qu'est-ce qui vous arrive? Et Michel nous dit, tu te rends compte, Nicolas? J'ai eu Dominique Rocheteau en équipe de France scolaire. Il avait 15 ans. Je suis un vieil homme et il téléphone pour prendre de mes nouvelles. Voilà, ça c'était les joueurs de l'équipe de France. C'était Michel. Ouais. Michel avait dit de ses joueurs que ce qui donne la force, c'est la tête donne la dimension, le cœur, la tête donne la solution, le cœur donne la dimension. Il me disait, j'avais des types bien. Dernière anecdote, si vous me permettez.
Je pense que vous venez de décrire des types bien et un mec bien aussi temps. Allez-y, Nicolas, une autre anecdote. C'est très
la dernière, le mercredi 12 février 2020, grâce à Jean Tigana et Henri Émile, qui ont été formidables, ils ont organisé au David un déjeuner. Il y avait tous les joueurs de l'équipe de France. Michel ne savait pas qu'il allait à ce déjeuner. On lui a fait croire, je lui ai fait croire avec Monique, qu'il allait à une visite médicale. Il arrive sur un fauteuil roulant parce qu'il était faible. Il a fait ce repas. Il a mangé comme il n'avait plus mangé depuis 2 ans. Et lorsqu'il rentre à la maison, l'ambulance le ramène à la maison, à la Cadenelle, et moi je le rejoins 30 minutes après. Il était sur son lit médicalisé et il regardait l'équipe TV, il regardait les boules. Et puis il m'appelle et il me dit, Nicolas, il y avait combien de joueurs? Et moi spontanément, je lui dis 22, Michel. Et il me dit, va voir Monique, tu leur dis que demain on recommence. Michel, malgré sa fatigue, s'était rendu compte de tout. Et je suis heureux parce que c'est son dernier repas et je l'ai senti heureux.
Eh ben Nicolas, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes.
Nicolas.
Bravo pour les mots que vous avez utilisés pour nous raconter tout ça. Et encore une fois, on vous accompagne dans votre
pour
combat.
Michel, je
vous
accompagne toujours disponible.
Eh ben merci beaucoup Nicolas Philibert, donc ami de longue date de Michel Hidalgo. Et merci d'avoir sensibilisé tout le monde sur le fait que la Fédé n'ait absolument rien fait un an après le décès de Michel Hidalgo.
Mais heureusement, il y a des gens comme Tigana, il y a des gens comme Henri Émile.
Oui, évidemment, c'est bien de les mettre en avant, mais normalement, ça devrait venir d'une Fédé. Mais en tout cas, merci.
Oui, exactement.
Merci Nicolas. Et d'ailleurs, j'ajoute que le compte Twitter de la Fédé, ça coûte rien de faire un tweet. Hein. Il n'y a absolument rien sur Michel Hidalgo aujourd'hui. Dans une seconde, on va finir avec un peu plus de légèreté, avec le quiz de Roten Régal. A tout de suite sur RMC.
RMC, Roten Régal, Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h49, toujours dans Roten Régal, bien sûr, les 10 dernières minutes. Et là, qui dit les 10 dernières minutes, Jean-Louis, c'est l'heure du quiz.
Oui, alors juste avant, je donne quand même l'info de la journée en Ligue 1. Donc Stéphane Moulin, conférence de presse à Angers. L'entraîneur donc qui a la plus longue présence sur un banc de Ligue 1 des 5 grands championnats annonce donc que c'est terminé. Après 10 ans sur le banc d'Angers, à la fin de la saison, ce sera terminé. La longévité peut devenir une faiblesse, a-t-il dit, et je ne voulais pas en arriver là. Je suis amoureux de ce club et je le resterai à jamais. À voir donc s'il arrive à rebondir en Ligue 1 dès l'année prochaine, Stéphane Moulin. On enchaîne, donc on y va. Donc ce ne sera pas une question du quiz, hein, je vous le dis. Rayez ça si vous l'avez.
Je l'ai barré, Moulin.
Allez, on y va. On joue.
RMC, Roten Régal.
Comment moi, je ne sais pas que Saint-Etienne a gagné plus de Coupe de France que Monaco.
Tu as été moins réactif, c'est l'âge.
Quoi ? Pardon ?
Le quiz.
Ce rire. Alors on y va. Le quiz avec Adam. Salut Adam.
Salut Adam.
Il est où? Il est là. Salut Adam.
Salut Jean-Louis, salut l'équipe.
Tu veux faire équipe avec Jérôme? Salut ou Jean-Michel?
Non, je me mets avec Jean-Michel, on va le rendre humble, Jérôme.
Très bien. Pierre est là, salut. Oula. Pierre.
Oui, salut.
Oh là là. Salut Pierrot.
Salut Pierrot, Pierre.
Alors Pierre, tu fais équipe avec Jérôme, tu es un fidèle de Roten Régal.
Oui.
Alors, donc, des questions d'actu sur l'actu de la journée et des questions sur la première journée des éliminatoires de la qualif à la Coupe du Monde 2022. Voir si vous avez bien suivi les matchs qui se sont déroulés. Question d'actu, un Kikadi. Qui a dit oui, nous étions intéressés une fois par lui, mais nous ne sommes pas allés jusqu'au plat principal. C'est un dirigeant d'un club qui parle de Zlatan Ibrahimovic, qu'il a voulu recruter en 2013. Non. Président d'un. Non, pas Monchi.
Jean-Michel Aulas.
Pas Jean-Michel Aulas. Président d'un grand club européen.
Agnelli.
Beckenbauer.
Non, pas Beckenbauer, mais t'es pas loin.
Honnête.
Ouais, Uli Honnête, bien joué. Ah, bah, c'est une passe décisive, Jérôme, que tu mettes une passe D, c'est pas si étonnant quand même.
Voilà, il a pas honte, comme il a pas honte, il a pas honte de profiter de ça.
Magnifique, Jérôme. Alors attention, donnez-moi un buteur du groupe J. Non, pas Lewandowski. C'est le groupe avec l'Arménie, le Liechtenstein, la Roumanie, la Macédoine du Nord, l'Islande et l'Allemagne. Adji.
Eh ben, Goretzka.
Goretzka.
Oui, Goretzka. Adam, bien joué. Dit. Alors, c'est Adam, mais Jean-Michel, t'as dit Goretzka. Non. Non, ça passait pas. Oui, passe décisive pour Adam. Ça fait 2-0.
2-0.
J'ai l'impression que Jérôme, là, en vacances, c'est pas trop ça. Il a pas trop posé. Attention, qui a tweeté aujourd'hui ? De retour, plus de peur que de mal. Merci. Merci pour vos messages chaleureux. Oui, Dembélé, Adam, bien joué. 3-0. Ouais, c'est terrible, hein. C'est terrible.
Ça se passe comme prévu.
Pierre, t'es là ?
Oui, oui.
Ok, très bien.
Allez, alors, Pierre. Allez.
Donnez-moi un buteur anglais lors de la victoire à Saint-Marin.
Sterling.
Oui, Sterling. Ah, c'est Adam. Non, c'est Adam.
Ah non, c'est moi.
C'est Adam qui a
dit. Mais tu vois quand on est en décalage.
Ah, il y a un décalage. Putain, fais chier ce décalage.
4-0. Attention. Pourquoi Thierry Henry est-il dans l'actualité aujourd'hui?
Il a arrêté les réseaux sociaux.
C'est Pierre. Non, c'est Pierre qui est parti en premier.
C'est moi.
Non, c'est pas toi. Effectivement, Thierry Henry qui a annoncé quitter les réseaux sociaux parce qu'il il en a marre de ce qu'il lit. Voilà.
4-2.
Intéressant quand même. 4-1. Attention. Où entraînera Xabi Alonso l'an prochain? Bien joué, Adam. Ah, il s'est pas fait avoir. 5-1. Et oui, Xabi Alonso qui était sur les tablettes de Mönchengladbach pour remplacer Marco Rose. Bah, finalement, il a prolongé avec la réserve de la Real Sociedad. Donc, il sera toujours là-bas la saison prochaine. Intéressant. Attention, lors de cette première journée des éliminatoires, qui a inscrit un triplé? Non, pas Zlatan.
Non. Le triplé, merde, je le sais.
Il y en a deux.
C'est Lewandowski.
Non, ils sont deux à avoir mis un triplé. Un tchèque.
Ouais, ouais, non,
et
je l'ai là.
Non. Putain, et un turc.
Ah ben.
Burak Yılmaz, Adam, bien joué. Ouais,
bien, Adam. Bon,
Jérôme, il y a un petit décalage pour que ça arrive, mais il a les réponses quand même.
Mais ça arrive pas.
Bon, là, ça fait 6-1. Pierre, t'es toujours là?
Oui.
Très bien. Alors.
Ah, c'est un bon score, on peut s'arrêter là, non?
Ouais, c'est un beau score, 6-1, mais on va continuer un peu quand même. Alors, est-ce que vous êtes capable de me dire que vient faire Thomas Grønmark au club de Toulouse, au TFC?
Préparateur physique.
Il n'est pas dirigeant, il n'est pas préparateur.
Psychologique. Masseur, kinésithérapeute.
Non. Il arrive dans le staff technique.
Bah ouais, il va porter les plots.
Non.
Gardien de but.
Oui, Adam, spécialiste des touches, bien joué. Non, en plus, c'est Adam, il est incroyable. Ça va être un consultant extérieur pour les touches. Il faisait ça à Liverpool, ouais, ouais. Et bah, il va le faire à Toulouse aussi. Ouais, ouais, il va venir travailler que les touches.
Ouais. Ah, c'est bien ça, il a des bonnes idées, Patrice Garand.
Ah ouais. Je pense que c'est plus Damien Comoli, mais.
Ouais, ouais, à mon avis, ouais.
Il a d'ailleurs rappelé qu'à Liverpool, 14 buts ont été inscrits après une touche. Et ça peut changer complètement le fil d'une saison.
Voilà. Ouais, c'est sûr.
Alors on pourra faire un sujet sur les touches un jour. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme?
Ouais, sur Damien Comoli aussi.
Aussi. Attention.
Vous ne m'invitez pas. Vous ne m'invitez pas parce que.
Attends, il fait du super boulot à Toulouse.
Oui, ça souvient encore à Saint-Etienne.
On revient sur les éliminatoires. On va voir si ça va finir à 7-2. Parce que pour l'instant, il y a 7-1. Qui était le gardien du Portugal contre l'Azerbaïdjan?
Lopez.
C'est Pierre qui l'a dit.
Oui.
Bien joué.
Bravo,
Pierre.
Pierre. 7-2. Qui était le capitaine de l'Italie contre l'Irlande du Nord?
Verratti.
Non.
Non, Chiellini.
Oui, Chiellini, Jérôme, bien joué. 7-3. Ah, merde, ça remonte, ça va être incroyable.
Vas-y, enchaîne.
Alors attention, Ronaldo a réclamé des recrues, selon la Gazzetta dello Sport, pour la saison dernière. Et le même journal a sorti
pour la saison
deux
prochaine.
Pour la saison dernière.
Pour la saison prochaine. Aguero et Keane. Adam, il est trop fort. Et il est concentré.
Oui, mais je les savais, j'attendais que tu veux.
Bah oui, mais bon.
Oui, c'est ça, oui, c'est bien ça.
C'est fini. Adam, bravo.
C'est fini.
Bravo, Adam, t'es allé chercher tous les points.
Adam.
Alors que Captain Dorn.
Adam, tu rappelles plus, hein.
Adam.
Allez, à l'année prochaine. Oh,
les prochains, tu rappelles, on fait une équipe et on va humilier Rotten.
T'as pas donné une seule réponse aujourd'hui.
Non mais moi, ma grande force, c'est de faire confiance aux gens.
Ouais, bien
et
sûr.
Je fais confiance à Adam.
Adam, on t'envoie un t-shirt RMC.
Pas toi, Jérôme, pas toi.
Et tout de suite,
j'aurais appris une chose, que Michel Hidalgo t'a donné le brassard. Mon Dieu.
Et il a failli succéder à Michel Hidalgo, Jean-Michel, t'imagines? Alors, tout de suite, l'intégral sport spécial rugby.
On s'est fait des amis, je crois, la Fédé.
Là, il y a du lourd. Christophe Cessieux, salut Chris.
Il y a du lourd quand tu parles de moi, c'est sympa comme accueil. Merci Jean-Louis.
La soirée va être magique.
On espère, évidemment.
Oh là,
Christophe, t'as fini ton goûter ou pas?
Non, pas encore. Je viens juste de dîner. Mais j'aurais
pas c'est sûr. Les vieux comme ça, quand ils n'ont pas le dentier, c'est long à bouffer. C'est long.
Mais tu sais ce que c'est, des longues heures d'antenne. On est obligé de se restaurer. Autrement, on va tomber d'inanition. Pas de problème ce soir.
Et non, pas d'animation.
Et pas d'animation. Non, ça, c'est pas possible. On peut pas tomber de ça. France-Écosse, évidemment, c'est le choc de la soirée. La France peut remporter ce match, mais ça suffira pas. Il faut remporter ce match avec des conditions extrêmes pour remporter le tournoi. On va vivre cette soirée jusqu'à minuit, exceptionnellement after rugby entre 23h et minuit avec toute l'équipe. Au stade, nous retrouverons Wilfried Templier et Denis Charvet, et puis seront avec moi également Richard Pouls-Jones, Richard Dourt et plein d'invités, dont Mathieu Bastaro.
Il y a du monde. Grande soirée rugby. On n'oublie pas le match des Bleus.
Vincent Moscato aussi, non?
Ah non, quand même.
Non, il n'y a pas le droit de travailler.
Il est trop cher, surtout. Et puis Kazakhstan en France, c'est dimanche 15h. On le débriefera dans Top of the Foot lundi 18h. 18h et Roten Régal est de retour vendredi prochain. Ciao.
Bien sûr, allez, bon week-end.